السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دونك مرحبا بكم اون سيت سواري دو ميركودي 9 محرم 1435 دو ليجير، سكي كوريسبون ان شاء الله تعالى افيك لو 13 2013 باذن الله عز وجل. دونك افيك سو 12 كور sur le dogme du monothéisme, le titre, inshallah ta'ala, ce sera le droit de légiférer. Tashri'a. Le droit de légiférer. Tashri'a. Le cours d'aujourd'hui, en fait, est court. Le cours d'aujourd'hui est court. Ça ne va pas dépasser, je pense, inshallah ta'ala, peut-être 20. Allah ta'ala. Minimum, disons une demi-heure. Donc aujourd'hui, on va parler du titre, c'est-à-dire le droit de légiférer, ce qu'on appelle en arabe al-tashri'a, et la législation sharia. Légiférer et le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal. Légiférer et le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on entend par la législation? Réponse: c'est ce qu'Allah Azza wa Jal révèle à ses serviteurs comme voie à suivre, et ce tant au niveau de la doctrine que des règles qui régissent la vie en société, al-mu'amalat et autres. Je répète, de toute façon j'aurais dû écrire cela, mais c'est-à-dire ça m'a échappé. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la législation? Qu'est-ce que ça veut dire que le droit de légiférer revient exclusivement à Allah Azza wa Jal? C'est quoi légiférer? Législation, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal révèle à ses serviteurs comme voie à suivre, et ce, tant au niveau de la doctrine que des règles qui régissent la vie en société, al-mu'amalat et autres. Il y a des gens qui comprennent que le din, ou bien l'islam, la religion en général disons, et surtout l'islam bien sûr, parce qu'ils sont contre l'islam. Beaucoup disent que la religion, c'est entre toi et Allah. C'est ce qu'il y a dans ton cœur, entre toi et Allah. Mais ça ne doit pas être extériorisé. C'est entre toi et Allah, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, c'est tout. Et encore, pire encore, non seulement ça ne doit pas être extériorisé, mais ça ne doit pas avoir d'impact sur la vie. Ni sur ta façon de manger, ta façon de dormir, ta façon de t'habiller, ta façon de te marier, ta façon de vendre. Est-ce qu'on vend cette chose, on la vend pas, c'est halal, c'est haram. Ils disent tout ça, ça n'a rien à voir avec la religion. Pour eux, la religion c'est entre toi et ton Seigneur, c'est au niveau de ton cœur. Et certains permettent d'extérioriser, mais seulement il y a les piliers. Tu pries, tu jeûnes, mais il faut pas aller, il faut pas, disons, élargir plus que cela. Non. C'est ce qu'on appelle les laïcs. Les laïcs. Taïb. On continue, inshallah ta'ala. On fait partie, c'est-à-dire dans la législation, le fait de rendre licite ou illicite. On avait dit que la législation, c'était ce que l'Azawajal a révélé à ses serviteurs, tant au niveau de la doctrine que des règles qui régissent la société, le mu'amalat. Maintenant, on va dire, fait partie de la législation aussi, hein, le fait de rendre une chose licite ou bien illicite. Cheikh Fawzan Hafidullah dit, nul ne peut rendre licite que ce que Allah Azza wa Jal a rendu licite, ni rendre illicite que ce que Allah Azza wa Jal a rendu illicite. Je répète, nul ne peut rendre licite que ce que Allah Azza wa Jal a rendu licite, ni rendre illicite que ce que Allah Azza wa Jal a rendu illicite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامُ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ لَا يُفْلِحُونَ. النحل 116. النحل 116. Nam, et ne dites pas, conformément au mensonge proféré par vos langues, ceci est illicite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ne réussiront pas. D'ailleurs, donc, on va expliquer un peu ce verset. Attendez que fasse grandir la parole. Nam, ne dites pas, conformément au mensonge proféré par vos langues, ceci est illicite, ceci est illicite. Faut pas dire ça de votre tête en mentant. Non, pour mentir contre Allah Azza wa Jal. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons le droit de dire que cette chose est licite ou bien n'est pas licite. Mais c'est seul Allah Azza wa Jal qui nous a créé, qui s'est donné le droit de quoi? De légiférer. Car si une chose n'est pas licite, tu la rends licite, ça veut dire que tu as légiféré. C'est pour ça que la personne devient kafir. Non. Et le contraire, si une chose n'est pas licite, et la personne dit, elle est licite, non. Elle devient kafira aussi. Bien sûr, après l'établissement de la preuve, après qu'on lui ait montré qu'elle se trompe, et que voilà ce qu'a dit Allah Azza wa Jal, voilà ce qu'il y a dans le Coran, etc. Et la personne ne veut pas revenir. Non. Tayyib. Allah Azza wa Jal aussi a dit, Allah Azza wa Jal aussi, a dit dans le Coran, dans ce même sens, dans le même sens, il a dit قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. يونس 5. Que dites-vous de ce que Allah Azza wa Jalla a fait descendre pour vous comme subsistance et des choses interdites? Est-ce que Allah Azza wa Jalla vous l'a permis? Ou bien forgez. C'est-à-dire en arabe, hein, ça c'est une critique, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait descendre des choses comme rizq, et vous, hein, comme ça de votre tête, vous dites, cette chose est permise, cette chose n'est pas permise à manger. Cette chose est permise, cette chose n'est pas permise. Et comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, hein, il a dit, est-ce que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui vous l'a permis? Ou bien, vous inventez des mensonges contre Allah Azza wa Jal, alors que ce n'est pas lui qui a permis cette chose, ou bien ce n'est pas lui qui l'a interdite. Naam. Cheikh Fawzan Hafidahullah a dit, Allah Azza wa Jal a interdit d'autoriser et d'interdire, si ce n'est avec une preuve du livre, c'est-à-dire le Coran, ou de la Sunna. En outre, il, Allah Azza wa Jal, nous a averti que celui qui le fait aura menti sur Allah Azza wa Jal. Tout comme Allah Azza wa Jal nous a fait savoir que celui qui rend une chose obligatoire ou interdite en l'absence de preuve sera, ce sera, c'est-à-dire ce sera érigé comme associé à Allah Azza wa Jal dans ce qui est de ses prérogatives, qui est le fait de légiférer. Je répète cette phrase très, ce passage très important. Allah Azza wa Jal a interdit d'autoriser et d'interdire les deux. Ni autoriser, ni interdire. Si ce n'est avec une preuve du Coran et de la Sunna. En outre, Il nous a averti que celui qui le fait, celui qui l'interdit une chose, qui n'est pas interdite ou bien autorise ce qui est interdit, aura menti sur Allah Azzawajal. Tout comme Azzawajal nous a fait savoir que celui qui rend une chose obligatoire ou bien interdite en l'absence de preuves, se sera érigé comme associé avec Allah Azzawajal dans ce qui est de ses prérogatives, qui est le fait de légiférer. Allah Azzawajal a dit, Naam, dans ce passage qui va venir, Inch'Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit, il a dit, Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Walawla kalimatu al-fasl la qudiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum 'adabun alim. Ash-Shura 21. Ou bien auraient-ils des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, ils auraient été tranchés contre eux. Les injustes auront, certes, un châtiment douloureux. Non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, est-ce qu'ils ont des associés avec moi? Comment on les prend? Quand est-ce que quelqu'un prend un associé? Une façon de prendre un associé. C'est quoi? Si, yani, tu interdis ce que Allah ta'ala a permis ou bien tu permets ce que Allah azzawajal a interdit. Donc dans ce cas, tu as légiféré avec lui. C'est pour ça qu'il a dit, ou bien, aurait-il des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses que Allah n'a jamais permises? Donc, si tu dis qu'une chose est interdite, alors qu'elle est permise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es érigé en associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as établi des lois religieuses. Et le contraire aussi. Tu dis que cette chose est permise, alors qu'elle est interdite. Non, ça veut dire que tu t'es érigé en associé avec Allah azzawajal, qui pour eux, ils ont par exemple cherché, ils ont fait des recherches et ils sont arrivés à un résultat que cette chose est permise. Ensuite, ils disent cette chose est permise. Non, je ne parle pas de cela. Celui-là, il a fait des ijtihad, il a cherché, c'est tout ce qu'il peut faire. Je parle de quelqu'un qui ni fait de recherche ni rien. Il sait que l'alcool est interdit, il dit non, l'alcool c'est permis. Alors qu'il sait que c'est interdit et il connaît il y a des délits, il dit non, c'est permis. Celui-là, ça veut dire qu'il a légiféré avec Allah subhanahu azzawajal. Cheikh Hafidahullah dit, quiconque obéit à ce législateur en dehors d'Allah azzawajal, en cause, il a bien dit, en connaissance de cause, et l'approuve dans cela, l'aura érigé en associé avec Allah azzawajal. Écoutez Allah subhanahu azzawajal ce qu'il a dit. Il a dit, wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. L'An'am 121. Et si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Non. Si vous leur obéissez, quand ils interdisent des choses qui sont halal, ou bien ils permettent des choses qui sont haram, et vous leur obéissez, ça veut dire que vous êtes devenus des associateurs. Comment cela? C'est-à-dire que vous avez pris ces gens-là, qui ont fait le contraire de ma religion, la religion d'Allah Azzawajal, vous les avez pris comme des dieux aussi. Moi j'ai dit, c'est illicite, eux ils ont dit c'est licite, et vous les avez suivis. Moi j'ai dit, c'est permis, eux ils ont dit c'est interdit. Vous avez dit c'est interdit. Donc, pour vous, il y a d'autres dieux avec moi, qui régissent des lois religieuses, qui régissent des lois religieuses. Le shirk dit, c'est-à-dire, ceux qui ont rendu licite ce que Allah Azzawajal a interdit comme bête morte sans avoir été égorgé au préalable, celui qui leur obéit dans cela est associateur mushrik. Mushrik. Naam. De même, Allah Azzawajal a informé que celui qui obéit aux rabbins et aux prêtres dans ce qu'ils ont rendu licite alors que Allah l'a rendu illicite et vice-versa, celui-là les aura adoptés comme seigneurs en dehors d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire les prêtres et les rabbins. Et ça rentre dans cela les ulama et tous. Je reprends. De même, Allah Azzawajal a informé que celui qui obéit aux rabbins et aux prêtres dans ce qu'ils ont rendu licite, alors que Allah Ta'ala l'a rendu illicite, ou bien le contraire, celui-là les aura adoptés comme seigneurs en dehors d'Allah Azzawajal. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون التوبه 31 التوبه 31 c'est-à-dire ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ fils de Marie comme seigneur en dehors d'Allah azza wa jal alors qu'on ne leur a commander que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui a. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le rabbin, hein, les rabbins, les savants, des juifs, et leurs moines, ceux des chrétiens, ainsi que le Christ, ils ont pris comme seigneur en dehors d'Allah. Comment qu'ils les ont pris comme seigneur? C'est-à-dire que ceux-là, Naam, ont légiféré des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré. Je parle des rabbins et des moines. Ils ont légiféré des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré. Ils les ont suivis. Quant au Christ, Naam, Isa alayhi salam, il n'a légiféré que ce que Allah azza wa jalla a légiféré. Al-Muhim. Cheikh dit, lorsque les compagnons, Afoun, le compagnon, Adi ibn Hatim, entendit ce verset, il dit, au messager d'Allah, nous ne les adorions pas. Le prophète Hassan lui répondit, Alaysu yuhilluna ma harrama Allah, fatuhilluna, wa yuharrimuna ma halla, fatuharrimuna. Naam, Alaysu yuhilluna ma harrama Allah. وَيُحَرِّمُونَ مَحَلَّهَ فَتُحَرِّمُونَ Il manque quelque chose ici. أَلَيْسُ يُحِلُّونَ مَحَرَّمَ اللَّهَ فَتُحِلُّونَ Il manque le verbe فَتُحِلُّونَ وَيُحَرِّمُونَ مَحَلَّ اللَّهَ فَتُحَرِّمُونَ Naam. C'est-à-dire, le prophète Islam a dit à Adi, il lui a dit, ne rendent-ils pas licites ce que Allah Azza wa Jalla a interdit et vous les approuvez? Et ne rendent-ils pas interdits ce que Allah Azzawajal a rendu licite et vous les approuvez? Si, a répondu Adi. Alors le prophète Islam lui dit, cela est leur adoration pour eux. Ça c'est leur adoration. Leur adoration c'est pas, tu fais les ablutions et tu vas yani, te prosterner devant le moine ou le rabbin. Non, il lui a dit, est-ce que ils ne rendent pas des choses licites que Allah Ta'ala yani, a interdit? Il a dit si. Et vous les approuvez? Il a dit si. Il lui a dit, est-ce qu'ils ne rendent pas des choses interdites alors que Allah Ta'ala les a permises? Les rabbins, ils font pas ça. Et les moines, ils ont dit si. Il a dit, vous les approuvez. Il a dit, naam. Il a dit justement, c'est ça votre adoration pour eux. Vous les adorez. Vous êtes des mouchrikoun. Vous les adorez. Il y a dans le hadith une preuve que l'obéissance au rabbin et aux moines dont la désobéissance d'Allah Azzawajal constitue une adoration à leur égard. Et elle est considérée comme étant de l'association majeure, shirk akbar, qu'Allah ne pardonne pas, conformément à sa parole à la fin du verset ci-dessus, lorsqu'il a dit, Azzawajal il a dit, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله المسيح ابن مريم الى دي وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون توبه 31 التوبه 31 رابين لور موان اون دور دالله عفوا ainsi que le Christ fils de Marie comme seigneur en dehors d'Allah alors que quoi on ne leur a commandé que d'adorer un dieu unique pas de divinité par lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe, Toba. Le cheikh dit, le verset suivant va également dans ce sens. Le verset suivant va également dans ce sens. ولا تأكلوا يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأنعام 121. الأنعام 121. Et ne mangez pas de ce que de ce sur quoi le nom d'Allah Azza wa Jal n'a pas été prononcé. Ne mangez pas ce qui n'est pas égorgé, hein? Égorgé. Car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Cher dit, beaucoup de gens sont tombés dans cela avec ce qu'ils imitent aveuglément, car ils ne tiennent pas compte de la preuve si elle va à l'encontre de l'avis de celui qu'ils imitent, et cela fait partie de ce genre d'association. Enfin, il a dit, se conformer à la législation divine et délaisser toute autre législation est donc une des implications de la ilaha illallah. Et c'est d'Allah Azza wa Jal dont nous implorons l'assistance. Je répète, il a dit, beaucoup de gens sont tombés dans cela, c'est-à-dire l'association, avec ceux qu'ils imitent aveuglément, car ils ne tiennent pas compte de la preuve si elle va à l'encontre de l'avis de celui qu'ils imitent. Et cela fait partie de ce genre d'association. Il a dit se conformer à la législation divine et délaisser toute autre législation est donc une des implications de la ilaha illallah. Et c'est d'Allah Azza wa Jal dont nous implorons l'assistance. Voilà pour le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Sauf que je voudrais, Inch'Allah Ta'ala, revenir sur une chose et l'expliquer un peu davantage. C'est lorsqu'il a dit, أَلَيْسُ يُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهِ فَتُحَرِّمُونَهِ ويحرمون ما حل الله عفوا أليس نعم فتحلونه نعم صديق en français il a dit ne rendent-ils pas licite ce que Allah Azza wa Jalla interdit vous les approuvez et ne rendent-ils pas interdit ce que Allah Azza wa Jalla rendu licite vous les approuvez. Il a dit si. Il a dit alors alayhi sallam cela est leur adoration pour eux. نعم cela était leur adoration pour eux. C'est-à-dire que s'il y a un gouverneur qui rend illicite ce que Allah Azza wa Jalla a rendu licite, ou bien qui rend licite ce que Allah Azza wa Jalla a interdit, et que toi, tu l'approuves et tu le suis, dans ce cas, tu es devenu un mouchrik. Pourquoi? Car tu l'as adoré. Car tu as adoré ce gouverneur ou bien ce savant qui a légiféré à, yani, contrairement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Non, j'aurais aimé que Cheikh Fawzan Hafidhahullah, dans ce livre, ait expliqué davantage pour que, ou alors pour pas que, les takfiris yani, prennent de l'apparence de ce hadith. De ce hadith, ne rendent-ils pas l'ici ce que l'Azhar, etc. Donc, yani, vous les adorez pour dire que, yani, les takfiris, pour dire que toute personne qui suit un gouverneur qui ne légifère pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal, le hadith authentique de, comment il s'appelle, Adi, naam, Adi ibn Hatim, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, naam, et ça devient quoi? Ça devient donc tous les peuples des pays musulmans sont des kuffars. Pourquoi? Parce que leur gouverneur ne juge pas avec toutes les lois d'Allah Azza wa Jal, même s'ils jugent avec certaines lois, comme dans les choses familiales, le mariage, le divorce, etc., etc. Donc, dans ce cas, dans les autres choses, ils ne légifèrent pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal, et nous, on est en train de les suivre. Donc, dans ce cas, nous, on est devenus des mouchrikoun, et des associateurs. Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans Majmou al-Fatawa, a dit: j'ai le passage, yani le tome et la page, pour celui qui veut cela, sauf que je ne l'ai pas maintenant devant moi. Mais si quelqu'un le veut, c'est-à-dire je peux le lui ramener pour le cours prochain, car il est dans une de mes notes. Il est dans une de mes notes, et je sais, bi'idhnillah ta'ala, cette note où elle est. Al-Muhim, il dit en ce sens, il dit que suivre un savant ou un gouverneur, ça se divise en deux. Bien sûr, quand ce savant ou gouverneur ne légifère pas avec les lois d'Allah. On ne parle pas de celui qui légifère avec les lois d'Allah. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. On parle de celui qui ne légifère pas avec les lois d'Allah. Il a dit ça se divise en deux. Car il a expliqué, Al-Hamdoullah, il a expliqué ce verset. Ce verset 2, yani, où c'est écrit que yani, vous suivez vos rabbins et vos moines, etc. Le hadith qu'on vient de voir maintenant. Al-Muhim, il a dit, les gouverneurs, ça se divise en deux. Ou bien, on va les suivre dans ce qu'ils ont légiféré, qui va en contradiction avec les lois d'Allah Azzawajal, on va les suivre en reconnaissant le statut de la législation, en reconnaissant dans le cœur que c'est la législation d'Allah, la législation d'Allah Azzawajal, c'est elle la vraie. Et celle-là, les forces que je suis en train de suivre. Non. Mais je les suis seulement par tentation, ou bien par peur, ou bien par un muhim. Mais je reconnais dans mon cœur que c'est Allah Azzawajal, c'est lui le seul législateur. Il a dit dans ce cas, cette personne est devenue perverse. Non, perverse. Il a dit, mais maintenant, si elle va le suivre, le savant ou le législateur, ou là le gouverneur va le suivre en mettant dans le cœur que sa législation est la vraie. C'est celle-là la vraie qu'il faut suivre. Pas celle d'Allah Azza wa Jal. Car celle-là est mieux. Ou alors, lui équivaut. Elle est égale à celle d'Allah Azza wa Jal. Dans ce cas, il a dit, il est devenu kafir. Il est devenu kafir. Et il y a un passage de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans son livre, comment il s'appelle, le Qawl al-Mufid. Non, Qawl al-Mufid, puis Sharh Ahkam Tawhid. Afoun, Sharh, c'est le Qawl al-Mufid, Sharh Kitab Tawhid. Sharh Kitab Tawhid. Juste l'affichage. Tayyib. Attendez, où est-ce qu'il a dit ça? Pour ceux qui ont quitté le Tawhid, pour ceux qui ont quitté le Tawhid. Une seconde. Tome 2, page 157-158. Tome 2, page 157-158. Naam. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je lis vite en arabe, ensuite je vais traduire en français, inshallah ta'ala. Il a dit, wa'alam, naam. Donc je ne traduis pas jusqu'à ce que je lise en arabe. Il faut patienter un peu pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Ça ne demande pas plus de 2 ou 3 minutes. وَعَلَمْ أَنَّ اتِّبَاعَ الْعُلَمَا وَالْأُمَرَى فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهِ أو العكس ينقسم إلى 3 أقسام. الأول أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له ساخطا لحكم الله فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. الثاني النوع الثاني أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد ولكن لهوى في نفسه اختاره كأنه يريد مثلا وظيفة فهذا لا يكفر ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة. الثالث أن يتابعهم جاهلا فيظن أن ذلك حكم الله فهذا ينقسم إلى قسمين. ألف أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه ولا يبحث فهو مفرط ومقصر فهو آثم لأن الله عز وجل أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. ب أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق، فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر الله به وكان معذورا. Donc ça donne en français à peu près. Il a dit, sache que le fait de suivre les savants et les gouverneurs dans le fait de rendre licite l'illicite, dans le fait de rendre permis l'illicite, ou bien le contraire, c'est-à-dire le fait de rendre illicite une chose que Allah Ta'ala a permise. Il a dit ça se divise en trois sortes. La première sorte, regardez la sunna ou le jama'a, l'ulama Allah ybarak, comment qu'ils yani, qu'il parlent en détail. C'est pas comme les kuffars, c'est pas comme les takfiri. Ils connaissent qu'un seul verset. Et quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, il est kafir. S'arrête là. Et quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, il est kafir. Toi le premier, tu ne juges pas avec les lois d'Allah. Toi le premier. Toi tu juges avec les lois d'Allah. Tu ne juges pas avec les lois d'Allah. Premier. Non. Et ils ne disent pas qu'il y a un deuxième verset qui dit celui qui fait Allah Azza wa Jal, il est seulement pervers, il n'est pas kafir. Et troisième verset, qui ne se juge pas avec les lois d'Allah, il est seulement. Non, il ne parle jamais de ces deux versets. Seulement le premier, quoi? Ils aiment faire sortir tous les musulmans de l'islam. Les sanguinaires, vous avez compris, les sanguinaires, les jahannamiyoun, ils aiment que tout le monde aille à jahannam. Naam, quiconque, naam, tout musulman, si c'était possible, le faire sortir de l'islam pour qu'il ne reste que les takfiriyoun, ils vont tout seuls dans le paradis. Ils vont tout seuls au paradis, profiter des délices là-bas tout seuls. Ils n'aiment pas que les musulmans soient avec eux. المهم يوم القيامة on va se rencontrer inshallah ta'ala et on va voir celui qui était نعم sur le sirat mustaqim et celui qui était dans la déviance. On va voir بإذن الله سبحانه وتعالى. المهم qu'est-ce que je disais, il a dit ça se divise en trois sortes, c'est-à-dire le fait de suivre un gouverneur ou un savant quand il légifère des choses qui vont à l'encontre de la charia, ça se divise en trois choses. Premièrement, le fait qu'ils les suivent, c'est-à-dire les gouverneurs et les savants, en agréant leurs paroles. C'est-à-dire leurs paroles ou leur jugement qui est contre la charia, bien sûr, et en la faisant prédominer. Et en ayant de la répugnance pour la parole d'Allah. Celui-là, Cheikh dit, Rahimallah, Cheikh Ibn Uthaymeen, celui-là est kafir. Pourquoi? Car il a détesté ce que Allah Ta'ala a fait descendre. Alors Allah Azza wa Jal lui a rendu ses œuvres vaines. Et les œuvres ne deviennent vaines que par le kufr. Toute personne qui déteste ce que Allah Azza wa Jal a fait descendre est kafir. Ça c'est quoi? C'est la première sorte, bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib. Et sache que le fait de suivre les savants et les gouverneurs dans le fait de rendre l'illicite licite ou le contraire se divise en trois sortes. Naam. Première sorte, le fait qu'ils les suivent en agréant, l'agréer leurs paroles et leurs jugements. Ensuite, ils le prédominent en disant que c'est le meilleur. Et en même temps, et de l'aversion pour le juge kafir, car il a détesté ce que Allah Ta'ala a fait descendre. Naam. Donc, ces œuvres sont devenues vaines et les œuvres ne deviennent jamais vaines que si une personne fait le coffre. Naam. La deuxième sorte, le fait qu'ils les suivent, ils suivent le gouverneur qui légifère contre l'IA, en agréant le jugement d'Allah cette fois, c'est le contraire, tout en attestant que le jugement d'Allah est le meilleur pour les gens et pour le pays. Mais, pour quelque fantasme qu'il a dans son cœur, il a choisi le jugement de ses gouverneurs ou de ses savants. Comme par exemple, pour accéder à un poste, devenir ministre, ceci. Celui-là ne devient pas kafir, mais fasiq. Et il a le statut de celui des autres pécheurs. Il a le statut quelconque pécheur qui a fait un grand péché. Donc la différence est énorme entre la première sorte et la deuxième. Dans la première sorte, il a suivi les gouverneurs et les hukam et les wasmum nam, les savants faux, du faux, mais en reconnaissant quoi? Que plutôt en reconnaissant, en disant dans leur cœur que leur jugement c'est le meilleur. Et il n'a pas le jugement d'Allah. Celui-là est kafir. Mais le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme le premier. Il a suivi naam, le jugement naam, qui légifère contre la loi d'Allah. Mais la grande différence est de taille. Celui-là, il a dit quoi? Il a dit le jugement d'Allah est le meilleur. Naam. Ce jugement-là est faux. C'est le jugement d'Allah qui est vrai. Dans son cœur. Mais pourquoi il les a suivis? Cela dépend. Il a des tentations. Par exemple, en les suivant, ça va les aider, ça va l'aider à avoir un poste dans l'État, ceci, cela, ne pas être expatrié du pays et comme ça. Al-Muhim, il a des raisons de la dunya. Celui-là, il est pervers. Il n'y a pas de différence entre le premier et le deuxième. C'est pas terminé. La troisième sorte, celui qui est ignorant, il croit que c'est d'Allah. Et celui qui est ignorant, il est en deux sortes. Donc il y a des gens qui sont ignorants. Ils suivent le jugement de n'importe quel gouverneur. Et ils croient quoi? Ils croient que Annie, ce qu'il a fait descendre, et qu'ils ont le droit de juger comme ça, Nam. Ça se divise en deux sortes. L'ignorant, dans le jugement d'Allah et dans la législation, se divise en deux sortes. Le premier, qu'il puisse connaître la vérité tout seul et il ne le fait pas. Allah Ta'ala lui a donné le niveau requis pour pouvoir chercher et faire des recherches, mais il le fait pas. Celui-là a enfreint à son devoir. Il a des péchés, car Allah Azzawajal a enjoint, même quand on n'a pas de science. صح اسالوا اهل الذكر واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يدوموندي اوجي اوجون لا سيونس سي فو نو سافي با لي جون دو ذكر اي سلوي لا يلا لي موين دوموندي نعم اي يل فو با دوموندي اي ني يل فو دوموندي ني يل فو فير دي ريشيرش طيب سلوي لا طيب كاس كيلا دي دو لوي بي كيل سوا ignorant puisse pas apprendre alors il suit le gouverneur et les savants par imitation, croyant qu'il est sur la vérité. Celui-là n'a pas de péché, car il a fait tout ce qu'il peut faire, donc il est excusé pour cela. Donc l'ignorant vise en deux. Celui qui peut chercher et ne cherche pas, et celui qui est, il ne peut pas chercher. Il n'a pas les bases et ne sait pas qu'il faut demander aux savants et comme ça. Naam. Celui-là, surtout, si jamais la chose n'est passée, yani par son esprit. Lam tatra ala balihi. Celui-là, cheikh dit, yani, il est excusé. Pourquoi? Car il a imité. C'est un imitateur. Il a imité. Et il ne peut pas apprendre. Il ne peut pas apprendre. Ce sont le cas des analphabètes, des vieux, des vieilles, de nos aïeuls, nos grands-mères, nos femmes qui étaient analphabètes et qui, yani, jamais ça leur est venu dans l'esprit que une chose pareille, il faut demander, il faut contacter les savants, etc. Donc voilà en gros ce que je voulais dire, Inch'Allah Ta'ala. Attendez, peut-être il reste qu'une chose. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Qui يعني, est spécialement sur Tishri'a, la législation, bi'idhnillahi ta'ala wa ta'ala. Et je vous donne 5 minutes et on commence les questions-réponses, bi'idhnillah. Subhanak indik, la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu lik. Salamu alaikum wa rahmatullah.
Première question, question sur le cours. Question d'une sœur. Une sœur demande, dans le cas où notre gouverneur juge avec autre que la chaléra, et que nous en suivons pas et ne l'approuvons pas, qu'au contraire nous suivons la chaléra, qu'en est-il de notre statut? Tafadhal, cher.
J'ai pas compris cette question. J'ai pas compris cette question. Est-ce qu'elle parle d'un gouverneur musulman ou kafir? Hein? Et que veut-elle dire exactement pour cette question? Car c'est yani, très délicat. Le cours d'aujourd'hui est très délicat. C'est entre le kofr et l'islam, le paradis et l'enfer. Il faudrait être très précis dans la question bi-idhnillahi ta'ala. Ensuite, s'il y a une sœur qui m'avait demandé une question du cours passé, sur le cours passé qui a rapport avec le chanteur, comment il s'appelle? Serge Gainsbourg. Non. Si elle est là aussi, qu'elle nous en informe. Tfadlal.
Naam, cher, je demande à la sœur qu'elle me recontacte pour plus de précisions, Inch'Allah. On va passer à la question suivante. Question d'un frère. Assalamu alaikum, cher. Est-il vrai que les salafs craignaient de se prononcer sur une chose quand on fait de la rendre halal ou haram? Et que par crainte de rendre une chose haram qu'Allah n'a pas interdit. Qu'Allah n'a pas interdite. Il disait en parlant de la chose, je la déteste ou elle est détestée. Des personnes utilisaient cet argument pour dire que l'on ne doit pas interdire une chose qui n'est pas explicitement interdite dans le Coran, notamment pour le statut de la cigarette. Ils disent qu'il nous est interdit de dire que la cigarette est haram, car le mot haram s'applique seulement à ce qui est clairement interdit dans le Coran. Et donc, que faut-il dire? Makrouh, c'est-à-dire détester, pouvez-vous nous éclaircir? Barakallahu fik cher.
En fait, certains savants comme l'imam Ahmed rahimahullah, yani, ne disaient pas clairement que c'est haram pour une chose, non, qui, yani, on ne sait pas si vous me présentez ou pas, désolé, alhamdoulillah. Donc, employaient beaucoup akrahu, akrah cette chose et comme ça. Et pourtant, certains dans le madhab, disent que beaucoup de fois quand l'imam Ahmed dit akrahu, c'est haram. Juste qu'il ne veut pas quoi? Qu'il ne veut pas prononcer le mot haram tant qu'il n'y a pas quelque chose d'explicite. Maintenant, si on revenait à la cigarette. La cigarette, vous allez voir les savants des salafs contemporains. Moi, personnellement, je dis moi, le petit qui n'a pas de science, je ne suis jamais tombé sur une fatwa d'un grand savant contemporain qui a dit que la cigarette n'était pas haram. Quand je dis comme ça ne veut pas dire que peut-être qu'il n'y en a pas. Non, j'ai dit moi, je ne suis pas tombé sur une fatwa. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit ça, je ne sais pas, Allahu a'lam. Mais tous ceux que je connais ou bien que j'ai lu leur fatwa sont unanimes pour dire que la cigarette est haram. Maintenant, pourquoi non, la personne dit, c'est pas explicite, il n'y a pas quelque chose de clair dans le Coran comme ça qui dit haram, donc on dit pas haram. Seulement les savants ont dit, si, il y a des choses explicites dans le Coran et la Sunna qui montrent que la cigarette est haram. Entre autres, que Allah Azzawajal a interdit qu'on gaspille de l'argent. C'est un verset. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا et aussi ولم يقتروا في ورش. Donc, il y a des versets qui parlent du gaspillage. Et toi, en achetant de la cigarette, un paquet ou deux par jour, et le paquet, je ne sais pas combien qu'il coûte, non, tu as fait du gaspillage. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ يعني, ne jetez pas la perdition avec votre main, de vos propres mains. Et le hadith a dit la darar wa la dirar. Et toi, tu es en train de te faire du mal et de te jeter à la perdition avec tes propres mains. Donc c'est contraire au Coran et à la Sunna. Il est clair. Ensuite, l'âme que tu as, ce ne sont pas tes biens, mais ce sont des, yani, comment on dit, ariya. Ariya, ça veut dire quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala t'as laissé en dépouille un mana. Et maintenant, toi, tu vas fumer et fumer. enfumer tes poumons et ton et ta poitrine et je ne sais quoi, au point de tousser, ensuite de tomber malade, ensuite peut-être d'avoir le cancer et des maladies. Si vous saviez, il y a des millions de personnes qui meurent par la cigarette. Je n'exagère pas quand je dis des millions, pas des milliers, des millions de personnes qui meurent par an, hein, à cause de la cigarette. La cigarette, tu vois, il faut pas voir son effet maintenant. Vois-le dans 40-50 ans et va chez le docteur, chez le médecin. Va faire une radio sur tes poumons avec les poumons de quelqu'un qui ne fume pas. Et tu vas voir la différence. Donc, Inch'Allah ta'ala, c'est clair que, Inch'Allah ta'ala, la cigarette est haram. Si maintenant certains savants, autrefois, ont dit que c'était permis, que c'était juste makruh, c'est en ce sens que il n'y avait pas toute cette médecine, cette technologie dans la médecine qui a permis maintenant et qui permet, hein, qui nous a rendu yani, certains et convaincus que quoi yani, que la cigarette est haram vu les grandes maladies qu'elle donne. Et enfin, on va dire, si on va supposer que la cigarette est juste makruh, makruh c'est-à-dire détestée ou détestable. Donc là, on va poser une question. Qui la déteste? Qui la déteste? Celui qui fume? Sûrement pas. Celui qui fume, s'il pouvait, il achetait 3 paquets de cigarettes par jour. Donc, qui la déteste? Donc je disais, si on supposait que c'était seulement makruh, qui déteste la cigarette? Allah Azzawajal ou bien la personne qui fume? C'est Allah Ta'ala qui la déteste. Donc comment faire une chose que Allah Subhanahu wa Ta'ala déteste? Même Allah Ta'ala des fois, c'est certains disent dans le Coran, grand péché. Il a dit que c'était makruh. Inch'Allah ta'ala. Tayyib, tfadl.
Question suivante, question d'une sœur. Comment considérer un pays où la majorité de la population est musulmane? On fait l'appel à la prière et il y a des écoles musulmanes. Mais ce sont les lois des mécréants. Mais ce que. Afwanchir, la question, elle a mal été. Mais ce sont les lois des mécréants qui sont appliquées ou qu'on essaye d'établir. Par exemple, pour un département français, je donne plus précisément comme exemple, Mayotte. Les dirigeants sont musulmans, je pense, mais ils sont alliés avec la France. Pourriez-vous m'éclairer, Inch'Allah? Barakallahu fik, cher.
Non, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose. Pas. Mayotte, elle a dit les dirigeants sont musulmans et qu'ils appliquent des lois françaises. Allahu ta'ala alam. Non. Elle a dit que la plupart, yani, sont des musulmans, etc. Je dis, certains ont dit, pour dire que c'est un pays musulman, on voit quoi? On voit quelles sont les lois qui sont appliquées. Si ce sont des lois musulmanes, musulmans, sinon c'est un pays de kofar, dans le kofre, même si les lois, même si il y a beaucoup de musulmans. Et certains, par contre, comme l'a cité aussi Cheikh Oukani, rahimallah, a dit que certains ne voient pas les lois, mais voient les personnes, c'est-à-dire qui sont les plus nombreux, les musulmans ou les kofars. Mais je crois, comme j'ai dit la fois passée, que l'avis, le premier avis, est plus fort. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, tfadl.
Question suivante, question d'un frère. Je voulais savoir quel est l'avis le plus authentique par rapport à l'excuse par l'ignorance. Parce que j'ai entendu Cheikh Fawzen dire qu'il n'y a pas d'excuse par ignorance, même dans les pays où la da'wa salafia n'est pas propagée et où les prêcheurs égarés font leur da'wa, pleine de shirk. Cheikh Fawzen a dit, ils ont qu'à chercher la vérité parce que les savants prêchant à la vraie voie, soient présents. Cheikh, la question n'est pas complète, subhanallah. J'avais pas remarqué.
Ne lis pas les questions qui ne sont pas complètes. Barakallahu fik. Les questions qui ne sont pas complètes, c'est pas la peine de les lire. Tfadhal.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله. Donc la question suivante, question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve de tout mal, cher. Voici ma question. Vous avez parlé de trois catégories de personnes. Celui qui obéit à un gouverneur dans ce qu'Allah a interdit ou le contraire et approuve cela, il est kafir. Celui qui obéit mais désapprouve, il est pervers. Celui qui obéit dans l'ignorance, soit il est pécheur, soit il est excusé. Mais je voudrais savoir quel est le jugement de celui qui obéit par contrainte, mais désapprouve, est-il pervers, comme la plupart des musulmans qui vivent dans les pays musulmans, dont le gouverneur impose des lois contraires aux lois d'Allah Ta'ala. Exemple, le fait de ne pas couper la main au voleur. Jazakumullahu khairan. Tfadashir.
Celui qui désobéit par contrainte n'est pas pervers. Comme celui qui, par contrainte, par exemple, insulte l'islam par contrainte, n'est pas pervers, d'après le verset. Naam. Donc, celui qui fait une chose par contrainte, il est contraint de la faire, il n'est pas pervers. D'ailleurs, Cheikh Al-Albani rahimahullah et de ceux qui ont permis d'avoir recours aux lois des kuffars si on est dans la contrainte. C'est la première condition. Et la deuxième, si on ne prend pas plus que la sharia nous a donné. Donc là, il est dans la contrainte. Sinon, il a dit quoi? Sinon, tes droits yani, vont disparaître. Tu n'auras plus de droits. Des fois, si tu ne fais pas recours, tu n'as plus de droit. On te fait sortir ta maison, on te brûle ta voiture, on t'agresse, donc classe. Bien sûr, sauf si la personne a les moyens, par exemple, de s'éloigner, de faire la hijra, et ne veut pas le faire. Et aussi, si vous voulez écouter, si vous voulez entendre, si vous voulez, vous me le demandez, je vous le dis, vous le montre. J'ai aussi un deuxième fichier là de certains savants qui parlent de la permission d'avoir recours aux tribunaux des koufars dans certaines conditions. Fadal.
Alors, question suivante, cher. Qu'Allah vous préserve, cher, ainsi qu'aux admins. Un individu dans notre village, à l'île de Mayotte, avec le statut d'oustad, sans avoir étudié auprès des savants salafis, affirme dans l'une de ses fatwas que le fait de prier avec ceux qui prient dans les mosquées abritant des tombes est une sagesse, et le fait de s'en écarter ne peut pas se joindre à eux, c'est-à-dire ne pas prier avec eux dans ces mosquées bâties au-dessus des tombes n'est pas une sagesse. Il nous cite comme preuve l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il priait en direction de la Kaaba, tandis qu'il y avait toujours les statues à l'intérieur de celle-ci. Et dit qu'il a fait cela par sagesse pour faire entrer les gens dans l'islam. Cependant, il refuse d'entendre le hadith authentique sur l'interdiction de prier dans ce genre de mosquée et nous accuse de dureté, entre parenthèses, nous, les salafis. Est-il jugé comme un législateur et où, comment devons-nous nous comporter avec lui? Barakallahu fikoum cher, qu'Allah vous assiste dans la dawa de vérité et vous accorde le firdaus ainsi qu'aux admins.
Un cas pareil, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, ne peut être pris comme législateur. Pourquoi? Parce que celui-là, il a dit choubouhet. On dit que quelqu'un est devenu un législateur quand la vérité est là toute claire il la rend sans quoi, sans ambiguïté, il n'a pas de choubouette. Mais celui-là, il a la chouba de croire que si tu la rends comme ça, tu vas faire fuir des gens de l'islam. Et il t'a cité le hadith de la Kaaba, que le prophète aslam faisait la prière, yani, et tournait autour d'elle, et que yani, c'était pour attirer les kofas, etc., pour qu'il ne fuit pas du dîn. Donc, la première partie de la question, on ne peut pas dire de lui qu'il est devenu un législateur tant qu'il a des choubouettes et qu'il interprète les choses fausses. La deuxième, cette personne est dans l'erreur. Non, cette personne est dans l'erreur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il tournait autour de la Kaaba ou bien priait en face de la Kaaba avec les 360 idoles, non, s'il pouvait, il ne l'aurait pas fait. La preuve, après, il les a démolis. Dès qu'il a pu, la première des choses qu'il a faites, il les a démolis. Alors que cette personne, non. Cette personne, non. L'âme, c'est-à-dire, elle peut ne pas prier dans cette mosquée, mais elle prie. Donc elle fait le contraire de ce qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était contraint, et cette personne n'est pas dans la contrainte. Maintenant, قَدْ تَبَيَّنَا رُشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Maintenant, la voie claire, yani, c'est yani, comment qu'on dit? Maintenant, on voit la voie claire. Elle est là devant nous. Donc, il ne nous reste plus qu'à la suivre. Et non pas de yani, suivre nos interprétations et d'aller à l'encontre de la charia. Donc, cette personne se trompe, là, et le qiyas qu'elle fait est un qiyas faux. C'est un qiyas axe même. Là, tfadlal.
Question suivante, question d'un frère. Je voulais savoir quel est l'avis le plus authentique par rapport à l'excuse par l'ignorance. Parce que j'ai entendu Cheikh Fawzen dire qu'il n'y a pas d'excuse par l'ignorance, même dans les pays où la da'wa salafia n'est pas propagée, et où les prêcheurs égarés font leur da'wa pleine de shirk. Cheikh Fawzen a dit qu'on a cherché la vérité parce que les savants prêchant à la vraie voie sont présents. Tfadashir.
Pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait que j'entende moi-même ce qu'a dit Cheikh Fawzan Hafidhahullah. Car il est possible que la personne ait compris comme ça et que ce n'est pas ce qu'il ait voulu dire. Car la plupart des savants des selfs, l'âme, disent qu'il y a ce qu'on appelle l'excuse. L'excuse, l'âme, il y a l'excuse par l'ignorance. Quand une personne ne sait pas une chose, l'âme, mais qu'elle l'a fait. Elle fait cette chose, elle est excusée. Elle est excusée dans ce sens que elle devient pas kafira. Non, car comme a dit Cheikh Ibn Othaymeen rahimahullah, il a dit que jamais une personne ne devient kafir jusqu'à ce qu'elle sache que ce qu'elle vient de faire entrer dans le coffre. Sinon, elle ne devient pas kafir. Et bien sûr, il y a des versets en ce sens. Donc, ça dépend ce que veut dire Cheikh Fawzan Hafidhullah. Peut-être il veut dire que si la personne a les moyens de chercher, mais elle ne veut pas. Il y a des savants qui font la dawa à droite, à gauche, et lui, il ne veut pas, il dit, moi je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, et il commence à faire le haram. Dans ce cas, il n'est pas excusé. Pourquoi? Parce que talabul ilm farida, car c'est obligé qu'il demande la science. Peut-être, voilà ce que veut dire Cheikh Fawzan, ou Allah subhanahu wa ta'ala alam. Quant à si une personne se trompe, ou alors ne sait pas, et il n'y a pas les moyens d'apprendre. Naam, dans ce cas, elle est excusée, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Est-ce que les personnes illettrées et ignorantes qui commettent du shirk, par exemple priant pour les morts, sont excusées du fait de leur ignorance? Tfadashir.
La fois, j'ai pas bien entendu la question. Tu as dit prions pour le mort. Qu'est-ce que ça veut dire prions pour le mort? Et j'ai pas entendu la fin de la question. Tfadlal.
Non, je répète, cher. Est-ce que les personnes illettrées et ignorantes qui commettent du shirk, donc elle dit par exemple priant pour les morts, l'Allah elle veut dire invoquer les morts, ceux qui invoquent les morts, je pense, sont excusés du fait de leur ignorance. Toi, Dacher.
Je viens de dire il y a quelques instants. Je répète la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Personne ne devient kafir jusqu'à ce qu'il sache que ce qu'il est en train de faire fait rentrer dans la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تبع غير سبيل المؤمنين. Il a dit, من بعد ما يتبين له الهدى. Après que la voie claire lui soit visible. Celui-là, il fait divergence, il fait comment on a dit, il fait dissidence, avec le messager. Il a dit, après que la voie claire lui soit montrée. Et là, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran aussi, une seconde. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله سبحانه وتعالى يعني نيغار جامي كيلكان نعم بعد إذ هداهم ابخي لافوار غيدي جوسكا سكي لوي مونتر لوي مونتر نعم يبين ما يتقون سكي دوا يعني ايفيتي نو با فير. دونك règle générale, personne ne devient kafir jusqu'à ce qu'il sache que ce qu'il a fait maintenant, c'est du kofr. Maintenant, il peut ne pas être excusé pour ne pas avoir demandé de la science et pour s'en être détourné. Il aura des péchés pour ne pas avoir demandé de la science et regarde pour ne pas avoir demandé où est-ce qu'il est tombé dans les grands péchés et même dans le shirk a'oudou billah. Naam. Wallahu ta'ala alam, tfadhal. Tu parles de quelle personne, Ibn Qayyim? Naam, quand on fait la da'wa à quelqu'un, écoutez, supposons que j'aille au cimetière et je trouve quelqu'un, yani, qui est en train de parler aux morts, celui qui est dans la tombe. Il lui dit, voilà, j'ai pas d'enfant, donne-moi ceci, cela. Naam, donc, j'essaye de trouver yani, une excuse, comment pour lui parler. Ça, comment arriver à, Inch'Allah Ta'ala, lui yani, propager le haq et établir sur lui la preuve. Il dit, salam alaykoum, salam alaykoum. Quand il termine, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, même si tu le trouves en train de tourner autour de la tombe, ne lui dis pas jusqu'à ce qu'il termine. Et il a cité le hadith de celui qui a uriné dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, laissez-le terminer, laissez-le terminer. Naam. Donc, c'est logique. Quelqu'un qui est en train de tourner autour de la tombe, tu vas l'arrêter et lui dire, écoute-moi, il ne va pas t'écouter. Laisse-le qu'il arrête, qu'il s'assoie. Et, Inch'Allah Ta'ala, tu demandes à Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu fais des doigts pour qu'il t'aide, et tu lui dis, voilà, comment ça va, la baisse, frère, il fait froid aujourd'hui. Tu commences et tu vois comment lui faire parvenir le message avec hikma et sagesse. Et lui dire que voilà, Allah, le prophète a dit dinou nasiha, et moi je voudrais que tout le monde aille au paradis, et la chose qu'on sait, on doit la transmettre aux autres, et comme ça et comme ça. Ensuite, lui dit voilà, les savants ont dit que le fait de tourner autour de la tombe, par exemple, c'est ça a tel et tel statut, c'est haram ou c'est shirk ou c'est kufr. Naam. Et je lui donne le dead comme ça. Donc maintenant, moi, j'ai établi la preuve sur lui. Mais ça ne veut pas dire que la preuve a été établie. Parce que ça dépend qui je suis pour lui. Ça dépend, je représente qui pour lui. Peut-être pour lui, il dit celui-là, c'est un jahel. Comment il va m'apprendre le din? Celui-là, c'est un enfant. Il a à peine 16 ou 17 ans, celui-là, mon petit-fils, il vient m'apprendre le din. Ou bien comme ça, ou bien des choses comme ça, dans ce cas, il a toujours des choubouettes. Mais toi, bon, Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que des fois, une fois, ça suffit pas. Des fois, une fois, ça suffit pas. Tant que tu as l'occasion de montrer, montre aux gens et tu auras des hasanat bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal.
Non, donc les prochaines questions, chers. Donc les questions d'ordre général. Comment l'enfant adultérin, entre parenthèses une fille, doit faire lorsque ses parents se sont séparés et que le juge attribue la garde partagée à la mère non musulmane? Les filles doivent donc aller chez leur père qui ne leur laisse pas le choix. Il ne pratique pas et serait hors de question pour lui de ne plus voir ses filles. Vous aviez parlé d'une fatwa du Cheikh Al-Othaymin, rahimahullah, sur les enfants nés hors mariage. Allahu alam. Le frère de leur père est pratiquement. Est-il possible pour lui d'être leur tuteur? Ah, il ne faut pas m'envoyer de PV, Barakallah, fait comme je n'ouvre pas le PV pour que. Ah, fun, cher. Parce que la fenêtre est bougée. Le frère de leur père est pratiquement. Est-il possible pour lui d'être leur tuteur? Jazakumullahu khairan. Tfadal, cher.
Afwan, cher, je n'ai pas compris la question. Si tu peux, Inch'Allah Ta'ala, m'expliquer un peu, tfadl.
Non, cher, en fait, la sœur pose la question pour une fille qui est née hors mariage. Cette fille est née hors mariage, et donc les deux parents, Allah Alam, n'ont jamais été mariés. Doit faire la séparation, c'est pareil. Non, mais Allah Alam, ils ont jamais été mariés, et le juge donc a attribué une garde alternée. C'est-à-dire, il a donné le droit de garde aussi bien donc à la mère qu'au père biologique. Et le père biologique, pour lui, il est hors de question qu'il n'ait pas la garde de ses enfants. Et donc, il ne veut pas rejeter ce droit. Il veut absolument voir ses filles. Alors, même si c'est une fille ou plusieurs filles. Et la sœur, je ne sais pas pourquoi elle pose cette question, elle dit, vous aviez parlé d'une fatwa du Cheikh Al-Othaymin, rahimahullah, sur les enfants nés hors mariage. Et elle dit, le frère de leur père est pratiquant. Est-il possible pour lui d'être leur tuteur? Je vois pas le rapport en fait entre la fin de la question et au moment où leur père en fait refuse de nous laisser la garde. Non, Adam,
Réponds-moi par oui ou non. Elle parle du frère de son, c'est pas de son mari, de l'homme avec lequel elle a eu la fille. C'est le frère de cet homme-là qui est pratiquant. C'est comme ça la question. Muslim, réponds. Voilà, le père biologique. En fait, vu que la mère est kafir. Tamallah, qui t'a dit que le père biologique est musulman? Qui t'a dit que le. Puisque tu dis que la mère est kafira, donc le père biologique musulman d'après toi? Qui t'a dit kafira? Qui t'a dit que cette femme, cette mère de l'enfant est kafira? Qui t'a dit ça?
Non, c'est la sœur qui le dit, cher. Elle dit, comment l'enfant adultérin doit faire lorsque ses parents se sont séparés et que le juge attribue la garde partagée à la mère non musulmane. Donc c'est une kafira. Et en fait, elle dit que le père biologique, normalement, il ne pratique pas. Peut-être qu'il se dit musulman, mais il ne pratique pas.
Donc tout ça, où est la question? La question, donc la mère qui est kafira, je l'ai compris. J'ai compris cette chose. Le père biologique ne pratique pas. Il est musulman, il ne pratique pas. N'est-ce pas? Donc, elle dit que le père a aussi la garde. C'est-à-dire le juge lui a donné la garde. Pas la garde, mais c'est-à-dire qu'il a le droit de voir la fille, etc. Donc, d'après cette kafira, donc qui pose la question, c'est elle qui pose la question. Elle dit, c'est-à-dire comment qu'elle va faire avec sa fille. Wallah al-Adim, j'ai pas compris la question. Tfadlal.
La chère. La sœur pose la question pour soit pour une amie à elle, ou alors c'est peut-être elle-même. Allahu alam, c'est pas précisé. Elle dit de façon générale, donc de façon générale, quand les parents se sont séparés et que le juge a attribué la garde partagée à la mère non musulmane. Et elle dit ensuite, les filles doivent donc aller chez leur père, qui ne leur laisse pas le choix. Ça veut dire leur père, il veut lui absolument. Donc quand son jour, son week-end arrive, ou la semaine où il doit avoir ses enfants, lui, il veut absolument les prendre. Donc elles n'ont pas le choix, elles doivent obéir. Et ensuite, donc la sœur dit, il ne pratique pas, et serait donc hors de question pour lui de ne plus voir ses filles. Vous aviez parlé d'une fatwa, donc ça je ne sais pas pourquoi elle dit ça, vous aviez parlé d'une fatwa de Cheikh Al-Othaymine sur les enfants nés hors mariage. Et ensuite elle dit le frère de leur père, donc le frère du père biologique, lui, il est pratiquant. Donc ses sœurs, donc ses filles, demandent est-ce que leur oncle biologique, si on peut l'appeler comme ça, peut être leur tuteur? Est-ce qu'il est possible que lui, cet homme-là, puisse être leur tuteur? Je ne sais pas là si c'est clair, cher.
En fait, moi, ce que je n'ai pas compris, ce que je n'ai pas compris, c'est-à-dire comment elle, c'est-à-dire la mère qui est kafira, madame, comment qu'elle veuille pas que sa fille aille yani chez son père qui est musulman, même s'il ne pratique pas. Elle dit, c'est-à-dire le juge lui a donné la gare une fois par semaine, je ne sais pas quoi, et après, il lui donne. Et après, pourquoi il ne lui donne pas? Donc c'est ça ce que j'ai pas compris. Tfadlal.
Parce qu'en fait, cher, comme ils ont jamais été mariés, cet homme-là n'est pas un mahram pour ces filles-là. Lui, il est juste le père biologique. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle précise. Le père, lui, donc il est le père biologique, et pour lui, il est hors de question qu'on lui refuse de ne pas voir ses filles. Parce que pour lui, c'est ses filles. C'est-à-dire lui, il a tous ses droits sur ses enfants. Mais islamiquement parlant, il est interdit pour lui d'être en contact avec ses filles-là, car il est juste le père biologique, et comme ses deux parents n'ont jamais été mariés, il n'est même pas devenu le beau-père de ses filles. Je sais pas là si cette fois-ci c'est clair, cher. Tfadl.
Ah, ça je l'ai compris. Ce qui m'a étonné, c'est comment yani, une kafira pense comme ça. Ils disent que yani, il va pas chez l'homme avec lequel elle a eu cette fille à cause de l'islam. C'est comme ça. C'est la fille qui pense comme ça. Non, je dis, moi je croyais que c'est la femme qui pensait comme ça. Je dis, cet homme était pour elle. Et son frère. C'est encore pire. C'est encore plus étranger. Même si quoi? Même s'il pratique et qu'il a la barbe et tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son oncle à elle. Ce n'est pas son oncle. Tant que le père biologique n'est pas son vrai père, donc alors c'est pas son oncle. L'imtina' wujud al-far' duna asl, comme on dit en arabe. L'imtina' wujud al-far' duna asl. Il n'est pas possible qu'il y ait des branches, des rameaux de tronc d'arbre s'il n'y a pas l'arbre. Si l'arbre lui-même n'existe pas, il n'est pas possible qu'il y ait des branches d'arbre ou là des rameaux. El Mohim. Donc maintenant, si le juge a jugé comme ça et qu'il n'y a que cela, il n'y a que cette solution, elle est contrainte. S'il n'y a que cette solution. Alors quoi? Elle est contrainte. Comment faire pour le tuteur? Vous savez que il y en a. Quand dit le prophète, il a dit Sultan Wali men la wali yalahu. Il a dit, c'est-à-dire comme en France, on voit une instance musulmane. Cette instance officielle musulmane, c'est elle qui devient le tuteur de celui qui n'a pas de tuteur. Sinon, un imam. Sinon, par exemple, l'ambassadeur, si c'est lui qui est marié, etc. Sinon, un imam. Un imam qui est mashallah. S'il n'y a pas imam, un frère qui est mashallah. Comme ça disent les savants. بإذن الله تعالى ولا فتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله lui-même a dit lui-même a dit il a dit je ne veux pas la dire en public il a dit je la laisse pour les clous c'est quoi c'est quand deux personnes par exemple on fait la zina ensuite un enfant ensuite surtout s'ils étaient des reconvertis ou là Mohim, Zina. Ils ont fait la Tawba, etc., etc. Il a dit, je peux leur donner une fatwa spécialement à eux qui viennent me voir, je leur donne une fatwa spécialement à eux par rapport à leur enfant. Par rapport à leur enfant. Quand il y a des cas spéciaux, je réponds, Inch'Allah Ta'ala, à sa place. Rahimahullah Ta'ala. Tfadlal.
Question suivante, cher. Abu Abdullah, qu'Allah vous accorde la réussite fi dunya wa fil akhirah, et qu'il fasse que vous soyez une cause de guide pour autrui et non une cause d'égarement. Qu'il fasse de vous une cause pour notre compréhension de l'islam. Amen. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre un croyant et un soumis? Si je vois une personne appliquer des piliers de l'iman, puis-je dire d'elle qu'elle est croyante? Tfadal cher.
Si c'est possible qu'il me dise les employés qu'il me dise en arabe pour que ça soit plus clair dans ma tête, inshallah ta'ala.
Donc, Ta'amallah est dit entre un mu'min et un musulman. Tfadal cher.
Muslim, est-ce que tu confirmes que c'est ce qu'a voulu dire? Est-ce que tu confirmes que celui qui t'a posé la question, c'est ce qu'a voulu dire Ta'amallah? Tfadal.
Non, mais en fait, cher, c'est Ta'amallah qui m'a envoyé la question. Il avait posé la question à la sœur. Et c'est ce qu'elle lui a répondu. Toi, d'acher.
Naam, en général, tout musulman, c'est tout mu'min. Tout mu'min, c'est tout musulman. Quand je parle d'une personne, je dis cette personne. Ou bien je dis, il n'y a pas de différence. Sauf si je mets les deux dans la même phrase. Si je dis par exemple, X est musulman et Y est mu'min. Dans ce cas, j'ai fait la différence. Donc je veux dire par musulman qu'il fait les piliers et par mu'min qu'il a en plus des choses qu'il fait avec le cœur, comme l'amour, la confiance, l'inaba, le khawf, la peur, la crainte, et tout ça. Vous avez compris? Donc, bien mu'min ne viennent pas dans le même contexte, dans la même phrase, alors ils ont le même sens. Tu dis X est musulman ou bien mu'min. Il n'y a pas de différence. Mais c'est si afwan, tu les mets dans une même phrase, les deux à la fois, ça veut dire que tu veux faire la différence entre les deux. Comme a dit Allah Ta'ala, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit on a cru, Allah Ta'ala a dit non, naam. Dites أسلمنا, on s'est soumis. Et l'iman n'est pas encore entré dans votre foi. L'iman, c'est plus élevé que quoi? Que le fait d'être musulman. C'est pour ça que dans le hadith de Jibril, alayhi salam, il a dit, c'est quoi l'islam? Ensuite, c'est quoi l'iman? Ensuite, c'est quoi l'ihsan, la bienfaisance? Il a bien fait la différence entre islam, c'est quoi? Ensuite, iman, c'est quoi? Pour dire qu'il y a une différence. Et dans Sahih al-Jami', ici, c'est la Sahiha aussi. Chirani a dit authentique, rahimahullah, que le prophète alayhi sallam a dit Aslam an-nas, les gens sont devenus musulmans. Wa amana Amr. Et Amr est devenu croyant. Ça veut dire c'est plus élevé. Il a voulu montrer qu'il était plus élevé que les autres. Il a dit les gens sont musulmans et lui il est croyant, il est mu'min, il n'est pas seulement musulman. Ça veut dire il est mieux qu'eux. Et le prophète sallallahu alayhi sallam, dans un hadith authentique, a entendu dire quelqu'un. Dire au professeur, il lui a dit, il est mu'min, c'est-à-dire donne-lui de la zakat, du butin. Et le prophète disait, il est peut-être musulman. Et l'autre disait, non, mu'min. Et le prophète disait, peut-être musulman, seulement musulman. L'autre, il dit, non, il est mu'min. Et le prophète lui disait, non, peut-être musulman seulement. Il voulait lui montrer que tout mu'min est musulman. Et non pas tout musulman est mu'min. Et, yani, comme on dit, ce qu'ils disent les savants, ce sont deux mots qui, s'ils se séparent, ils ont un sens différent. Et s'ils se groupent, ils ont le même sens. Islam et Iman. Et comme miskin, aqir. Et comme le bir ou taqwa. Et comme l'ithm ou l'udwan. Et comme, il y a comme ça beaucoup, beaucoup de mots qui sont comme ça. Bi'idhnillahi ta'ala. Cher la personne de la question demande, ustenept, est-ce que ce verset est propre à ces Arabes blancs, ou bien à tout musulman? Non, à tout le monde. À tout le monde. Toute personne qui rentre dans le dîner nouvelle, l'âme, on peut dire d'elle qu'elle est musulmane et qu'elle est musulmane. Mais si on parle de ce qu'il y a dans le cœur, on dit d'elle qu'elle est musulmane. Parce qu'elle ne connaît pas encore, yani, a'mal al-qulub et iqwa al-qulub. Mais, si on veut dire par rapport au kafir, c'est qui cette personne? On dit c'est une mu'mina. Cette personne est une mu'mina ou bien une muslima. C'est-à-dire par rapport au kuffar, elle n'est pas kuffar. Mais si on veut, on a allusion à la différence entre qu'il y a entre muslim et mu'min, dans ce cas, on dit c'est un muslim, c'est tout. Parce qu'il ne connaît pas encore les choses qui se passent dans le cœur.
Question suivante, question d'une sœur. Concernant l'un des cours qu'on a fait par rapport à l'histoire sur la prostituée, est-ce qu'il s'agissait d'une croyante qui croyait en Allah? Et après que Dieu lui ait pardonné ses péchés, s'est-elle repentie ou a-t-elle délaissé la prostitution? Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh.
Afouane, il y avait beaucoup de coupures, j'ai pas entendu la question. Non, je sais que la question tourne autour d'une femme qui était yani, dans le mauvais chemin. Mais j'ai pas tout entendu. Tfadal.
Non, mais je répète, cher. En fait, c'est l'histoire de la prostituée qui a abreuvé le chien. Donc, elle dit concernant l'un des cours qu'on a fait par rapport à l'histoire sur la prostituée. Est-ce qu'il s'agissait d'une croyante qui croyait en Allah et après que Dieu lui ait pardonné ses péchés, s'est-elle repentie ou a-t-elle délaissé la prostitution? Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh.
Fikoum barakallah. Le hadith n'a pas cité cela. Le hadith a cité que en faisant ce qu'elle a fait, Allah Ta'ala lui a pardonné. Donc maintenant, nous, on va supposer. Si elle a continué dans le repentir, alhamdoulilah pour elle. Si maintenant elle est revenue vers son mauvais chemin, elle aura des péchés. Mais Allah Ta'ala, à partir du moment où elle a donné à boire au chien, tout lui a été pardonné des péchés antérieurs qu'elle a fait avant le moment où elle a quoi? Où elle a donné à boire au chien. C'est tout ce qu'on sait qu'il y a dans le hadith bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. والله تعالى تفضل.
Question suivante. Question d'une sœur. Ma question porte. Ma question se porte. J'ai fait.
Non, parce que j'avais écrit quelque chose. Mais je m'affiche mouchkil musulman. Si c'est possible. Demander aux gens qui ont déjà posé la question de baisser la main. Si maintenant des personnes sont absentes et ont posé la question, tu peux, Inch'Allah Ta'ala, ou bien les admins, vous pouvez, Inch'Allah Ta'ala, leur baisser la main. Peut-être qu'ils sont absents, Allah Ta'ala. Comme ça, combien qu'il reste et combien qu'on doit, quand est-ce qu'on doit terminer. Bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadal.
C'est vous qui avez récupéré les questions. Barakallahu fikoum. Si les questions ont été lues, car je n'étais pas là au début, de baisser la main, Inch'Allah, des frères et sœurs qui ont donc leur question qui a été lue. Donc je répète la question, cher. Donc une sœur dit: je fais partie d'une association caritative pour nos frères et sœurs palestiniens dont je parraine. Chaque mois, j'envoie une somme d'argent. Cela est-il permis et rentre-t-elle dans les conditions de la zakat? Barakallahu fikoum. Et voici, il aime, il va s'amuser alors. Tfadal Fawzi, tfadal Cheikh.
Naam. Barakallahu fik de répéter la question. J'entendais pas, j'étais en train d'écrire. Tfadal.
Naam, cher, même moi, il me raide. Il est sans pitié. Donc c'est la question d'une sœur qui dit: je fais partie d'une association caritative pour nos frères et sœurs palestiniens dont je parraine. Chaque mois, j'envoie une somme d'argent. Cela est-il permis? Et rentre-t-elle dans les conditions de la zakat? Barakallahu fikoum. Tfadal cher.
Ne rentre pas dans la zakat d'envoyer comme ça, il y en a des associations, etc. Ça rentre dans la zakat si la personne fait partie des 8 qu'Allah Ta'ala a cités. Comme le voyageur, c'est-à-dire qui tombe en panne, comme l'endetté, comme le miskin, le pauvre, le démuni, et comme ça, celui qui veut rentrer, et comme ça. Sinon, et celui qui ramène travail pour la zakat. Ce qui est année, on ne peut pas choisir nous qui on veut. La preuve, la mosquée. Est-ce qu'il y a une la mosquée? La mosquée, c'est pour qui? Pour Allah Ta'ala. Si on va la construire, c'est pour Allah. Est-ce que c'est permis de donner la zakat à la mosquée? De dire, voilà, ils sont en train de construire une mosquée, donc je leur donne la zakat. Et pourtant, Allah Ta'ala a dit dans le verset de la zakat, il a dit, wa fi sabilillah, c'est-à-dire vous donnez aussi fi sabilillah. Et pourtant, les savants ont dit, la mosquée ne rentre pas fi sabilillah. Rentre fi sabilillah, le fait d'aller au djihad, ou bien de payer à quelqu'un le voyage pour aller au djihad, ou bien lui acheter des armes, et ça rentre aussi le djihad de la science, acheter des livres de sciences religieuses à un talibouin pour qu'il apprenne sa religion, lui acheter le Coran et comme ça, et les livres. Ou bien le Hajj, ça c'est fisabilillah. Mais que tu donnes à une association, je ne sais qui, tu dis ça. Ensuite, bon, c'est pas peine de dire cette chose parce que ça risque d'être qu'elle soit comprise à l'envers. Je voulais juste dire que les associations, Nam, yani, à part celle des mosquées, parce qu'elles sont obligatoires. Sinon, on ne te laisse pas construire ta mosquée s'il n'y a pas d'association en France, ou la loi française. Sinon, les associations en général, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter, surtout d'y travailler. Surtout d'y travailler. Maintenant, tu es sûr que cette association, que si tu lui donnes l'argent, elle va le faire arriver, fisabilillah, à bon port, etc. Mais allez, tu connais les gens, tu sais qu'ils sont sérieux, qu'ils sont ceci. Sinon, je veux dire que beaucoup d'associations, yani, même à statut islamique, et volent de l'argent et escroquent de l'argent, tournent de l'argent et comme ça. Je vous dis ça en connaissance de cause. En connaissance de cause, Nam, en connaissance de cause. De gens qui ont travaillé dans les associations comme ça islamiques et qui ont dit quand je travaillais, quand j'y travaillais autrefois, je volais de l'argent. Je volais de l'argent. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. La zakat, ça rentre pas l'association dans la zakat. Sauf si l'association me dit je connais des pauvres et donne-moi de l'argent, bi-idhillah, je vais les faire donner aux pauvres et que tu es sûr que ce sont des gens sérieux et tu leur as confiance. Naam. Tfadlal.
Question suivante. Doit-on payer la zakat el-mal sur de l'argent investi dans un commerce? Payer le loyer, achat de matériel, mais le commerce n'a toujours pas ouvert, donc aucun bénéfice. Dois-je zakier l'argent, c'est-à-dire le capital investi ou pas? Barakallahu fikoum. Tfadal cher.
Quand on investit de l'argent dans un projet et l'argent n'est pas chez nous, est-ce qu'on doit faire la zakat ou pas? Allahu alam. La semaine prochaine, inshallah ta'ala, je te donnerai la réponse. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfadlal.
Donc, question suivante. Question d'un frère. Cheikhana, hafizakum Allah. Une femme s'étant mariée avec un kafir, puis ils ont eu un enfant avec cet homme, puis par la suite a divorcé et s'est mariée avec un musulman qui a élevé cette fille de 5 ans jusqu'à maintenant. Peut-il être le tuteur de cette sœur qui désire se marier, qu'Allah vous raffermisse, ainsi que tous les frères et sœurs? Non, c'est pas précisé. Une femme. C'est pas précisé, cher. C'est vrai que c'est important dans la réponse. Voilà. Taramallah, est-ce que tu peux demander au frère qui a posé cette question, si c'est une musulmane? Tfadal, cher.
Non, wallahu a'lam, car à la fin tu as dit cette sœur. Voilà, tu as dit cette sœur de monde, je ne sais pas quoi. C'est la fin de ta question. Regarde avec moi si je ne me suis pas trompé. À la fin tu as dit cette sœur de monde, wallahu ta'ala a'lam. Et c'est une musulmane, alhamdoulilah. Et avant d'oublier, musulmane, si c'est possible, inshallah ta'ala, de relire la question de la zakat, la dernière, sur le projet. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas payé le loyer de je ne sais pas quoi. Tfadlal, relis la charlatana pour que je la comprenne mieux. Tfadlal.
Monsieur, donc la question sur la zakat. Je reviens dessus. Donc, doit-on payer zakat el-mal sur de l'argent investi dans un commerce? Donc, dans ce commerce, nous avons payé donc le loyer, nous avons acheté donc tout le matériel, etc. Mais le commerce, il n'a pas encore ouvert. Il n'a pas encore ouvert ses portes. Donc, pour l'instant, on n'a fait aucun bénéfice. Dois-je zakier l'argent, c'est-à-dire le capital investi. Donc, c'est-à-dire l'argent qu'il a dépensé pour tout le matériel, etc., les quatre murs, etc., c'est-à-dire tout le capital. Est-ce que c'est clair, cher? Non. Donc, la question suivante. Question du frère. Donc, il dit, une femme s'étant mariée avec un kafir, puis a eu un enfant avec cet homme. Puis par la suite a divorcé et s'est marié avec un musulman qui a élevé cette fille de 5 ans jusqu'à maintenant. En fait, il faut comprendre, cher, c'est-à-dire que la fille, lorsque ce beau-père l'a élevée, elle avait 5 ans quand il s'est marié avec sa mère. Donc aujourd'hui, Wallahu alam, elle est pubère et c'est cette sœur maintenant qui voudrait se marier, Wallahu alam. Ce qu'il dit, peut-il être le tuteur de cette sœur qui désire se marier? Qu'Allah vous raffermisse, ainsi que tous les frères et sœurs. C'est l'enfant, en fait, cher, qui a grandi et qui maintenant elle veut se marier, inshallah. Toi, cher.
Vous savez qu'en islam, le beau-père ne peut être un tuteur. C'est un peu aussi l'oncle maternel, khal. Khalik. Il ne peut pas être ton tuteur. Mais maintenant, si la femme n'a pas de tuteur, elle cherche quoi? Comme dans le hadith, donc elle cherche une instance. Le juge, naam, s'il n'y a pas, l'imam, s'il n'y a pas, elle peut prendre un frère qui est mashallah. Et maintenant, le frère qui est mashallah, il se peut qu'elle prenne par exemple son oncle. Alors que l'oncle, il ne peut pas être tuteur. Mais elle va dire, je l'ai pris, j'ai pris mon oncle. C'est pas parce que c'est mon oncle. Mais c'est parce que celle qui n'a pas de tuteur prend quelqu'un qui est mashallah et moi, mon oncle remplit les conditions. Vous avez compris? Donc celle-là, c'est la même chose. Si maintenant elle doit prendre un frère qui est mashallah, elle n'a pas trouvé d'instance. Comme j'ai cité tout à l'heure, elle a pris un frère qui est mashallah. Il se peut que ce frère soit, par exemple, son beau-frère. Afon, son beau-père. Mais pas dans le sens, elle ne l'a pas pris parce que c'est son beau-père. Mais c'est parce que, tant qu'elle n'a pas de tuteur, il lui est permis de prendre quelqu'un qui remplit les conditions. Bi-idhnillahi ta'ala. Tfadla.
Alors, question suivante. Question d'un frère. Cher, qu'Allah vous accorde sa satisfaction ainsi que les frères et sœurs présents ce soir. Ma question est très importante. Mon imam, donc l'imam de ma ville, tous les samedis matin, 2 heures avant Salat al-Fajr, il donne rendez-vous aux fidèles pour faire Qiyam al-Layl. Je reconnais que c'est une sunna, mais je me pose la question du fait de pratiquer Qiyam al-Layl tous les samedis depuis plus de 6 mois, si cela ne deviendrait pas une innovation. Et mon imam suit Qardawi aveuglément et dénigre Cheikh Ibn Baz et Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, rahimahumullah, pouvez-vous lui faire nasiha en arabe? Hayakumullah, Cheikh. Alors, même s'il dénigre ses grands savants, je ne sais pas s'il sera réceptif à une nasiha. Allahu alam. Tfadal, Cheikh.
Non, c'est pas cela. Oui, c'est conctuel. Mais que cela, c'est quoi? Donc, lui, il dénigre. Naam. Qui les savants que tu as cités? Tu as dit qui? Tu as dit Mohamed Al-Wahhab, je crois. Écris-moi les deux savants que tu as cités. Ou bien, tiens, je te donne le micro. Donc celui-là, il dénigre Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, et Cheikh Ibn Baz. Et qu'en est-il maintenant si moi je vais lui donner une nasiha? Il va dire qui c'est celui-là, yani ce fou, ce jahel, puisque Cheikh Ibn Baz et Mohamed Ibn Abdel Wahhab, que certains des deux, ils les appellent Cheikh. C'est-à-dire les deux, pour les savants d'Al-Sunnah, ils les appellent Cheikh l'islam, les deux, c'est-à-dire Cheikha l'islam. Qu'en est-il le petit musulman qui est Blida, je ne sais, dans un petit village, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Donc je dis à cette personne, je lui dis pas à elle parce que c'est pas la peine qu'elle m'entende, je dis à celui qui m'a posé la question. Je lui dis, cet imam est un égaré égareur. Cet imam est un égaré miskin et égareur parce qu'il égare les gens. Naam, la prière en groupe, il n'y a que celle qui a été légiférée par Allah Azzawajal ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, il y a Qiyam al-Lil, ce qu'on appelle le Ramadan, ce qu'on appelle Tarawih. Naam, sinon, se donner rendez-vous pour faire Qiyam al-Lil, ça rentre dans la bid'a, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen et Cheikh Al-Albani rahmallah dans Silsila Sahiha. Le prophète Aslam a fait Qiyam al-Lil avec Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud et Abdurrahman ibn Auf sans se donner rendez-vous. Il s'est endormi et s'est réveillé, a commencé à prier seul. Et Abdullah ibn Abbas est venu et s'est mis à sa gauche et il l'a pris par les oreilles et il l'a remis à sa droite. Il ne lui a pas donné rendez-vous. De ce hadith, Ibn Uthaymeen a dit, Cheikh Al-Albani aussi, rahmallah, si quelqu'un donne rendez-vous, prier la prière de la nuit, et qu'il le fait rarement, comme ça par occasion. Malish. Mais s'il le fait comme ça souvent, pour que ça devienne une habitude, il a dit, ça rentre dans la bid'a ou l'ayadu billah. Ça rentre dans la bid'a ou l'ayadu billah. Tfadal.
Naam, cher. Par contre, tout à l'heure, je n'avais pas compris lorsque vous aviez dit par rapport au matin levé, par rapport au temps qu'il reste. À lire, etc. Non, même parce qu'il y a, moi sur mon écran, il y a beaucoup de mains levées. Et je ne sais pas s'il y a un timer, je ne sais même pas à quelle heure vous avez commencé les questions. Donc, question suivante. Question d'une sœur. Comment devons-nous réagir lorsque nous trouvons les tracts publicitaires dans la rue sur lesquels le nom d'Allah et des noms d'Allah sont écrits en phonétique et en arabe, comme par exemple Avenue, Abdullah, etc. Les personnes qui jettent ces tracts sur la voie publique ne font peut-être pas attention. La dernière fois, j'étais au centre-ville et j'ai vu plein de tracts publicitaires. J'en ai ramassé quelques-uns par principe, tout en me disant que je ne suis pas responsable, mais en même temps, si je ne les ramassais pas, je n'aurais pas la conscience tranquille et me sentirais coupable d'un péché, inshallah. Allahu alam. Ma question. Est-ce obligatoire de ramasser des papiers sur lesquels est écrit le nom d'Allah en arabe ou en phonétique, surtout quand il y en a beaucoup à ramasser? Avons-nous des péchés pour ne pas les avoir ramassés? Barakallahu fikoum. J'ajoute une précision, je vis dans l'un des pays du Maghreb, d'où ma question. Barakallahu fikoum. Tfadal cher.
On a demandé aux grands savants du comité permanent, est-ce que c'est permis d'envoyer des lettres qui s'appellent des lettres d'invitation sur lesquelles on écrit par exemple Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, invité tel jour au mariage à tel endroit, est comme ça. Ils ont dit dans la question, en sachant que certains gens ou beaucoup jettent ces lettres, est-ce que on est responsable ou pas? La réponse a été d'écrire des choses pareilles. Car le prophète, alayhi sallam, quand il envoyait au roi, il écrivait Min Rasulillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Min Muhammad Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, ila fulan, azim ar-Rum, ou bien. Il a dit Conta, et ça c'est la réponse à la question de celui qui vient de la poser maintenant. Conta, elles vont être jetées par terre, ou piétinées, ou, il a dit, la responsabilité incombe à celui qui a reçu la lettre et non à celui qui l'a envoyée. La même chose ici, quand tu marches dans la rue, il y a des journaux, il y a je ne sais pas quoi, c'est écrit Allah, etc. C'est celui qui a jeté cette chose qui en est responsable. Maintenant, toi, bien sûr, parce que moi, j'ai vécu ça plusieurs fois quand je vais à la mosquée, je trouve à droite, à gauche, des mots, c'est écrit Allah, etc. Je sais que si tu prends pas le journal, peut-être que tu ne vas pas avoir la conscience tranquille. Tu vas dire comment j'ai laissé comme ça Allah Ta'ala le mot yani jeté comme ça par terre. Tu vas pas avoir la conscience tranquille. Je dis, si c'est seulement yani un journal ou là une fois, tu vas prendre ça deux, trois maximum, d'accord, et les mettre comme ça de côté. Mais si il y a, comme dit dans la question, des dizaines ou des centaines qui sont comme ça partout, ce n'est pas dans tes obligations de prendre ça. C'est celui qui les a jetés qui aura quoi? Qui aura des péchés bi'idhnillahi ta'ala. Mais toi, si tu trouves par exemple une seule feuille et que c'est possible de la prendre ou de la brûler ou de la cacher comme ça dans un endroit d'âme inaccessible à ceux qui la piétinent, mais allez, tu fais ça, c'est quelque chose de facile. Sinon, si c'est compliqué, khlas, dis dans ton cœur que je me désavoue de celui qui l'a jeté, c'est tout. Tfadlal.
Alors, question suivante, question d'un frère. Cher, qu'Allah vous préserve, il y a deux jours, j'ai débattu avec un frère sur le cas d'un comédien connu d'origine musulmane. Qu'Allah le guide. Ce comédien se moque d'Allah dans ses spectacles et le frère a fait son takfir à cause de cela. Quant à moi, j'ai dit que ce comédien a fait un acte annulatif de l'islam, mais que je ne le rends pas mécréant tant qu'un savant ne m'a pas précédé là-dessus. Et le frère a répondu que la moquerie de la religion est un des rares cas qui n'est pas soumis aux règles du takfir. Donc voici ma question. Lequel de nous deux a raison? Et est-il permis pour le musulman de la masse de faire le takfir d'un individu précis dans le cas où celui-ci se moque d'Allah? Tfadal, cher.
Moi, je pense, wallahu ta'ala alam, c'est seulement mon avis. Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Qu'en général, un musulman doit éviter de faire le mais qu'ils disent en général ceux qui font comme ça sont des kuffars. Là, celui qui fait comme ça c'est un kafir. Et celui-là, est-ce qu'il est kafir? Il dit je dis pas de lui, je dis pas pour établir la preuve que vraiment il n'est pas dans une qu'il n'est pas sous vraiment, qu'il sait ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire, qu'il sait que c'est interdit de dire des choses pareilles et comme ça. Je préfère yani sauver ma peau. Car, écoutez bien, car si je dis celui qui fait comme ça est kafir et je ne fais pas le takfir particulier, nam, devant Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas de péché. Car j'ai dit comme disent les savants. Et maintenant, si je dis celui-là est kafir, et si jamais il n'est pas kafir, ça veut dire que c'est grave, donc il vaut mieux que je sauve ma peau. En parlant de globalité. Wallahu ta'ala alam.
Question suivante. Est-ce que vomir en petite ou grande quantité annule les ablutions? Barakallahu fikoum. Allah vous récompense ainsi que les admins. Tafadhal cher.
Vomir, quantité, n'annule pas les ablutions. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on va envoyer une barque, on lui a dit, on perd les. Mais le problème, c'est que on transporte juste un peu d'eau avec nous. Est-ce qu'on peut yani, faire les ablutions de l'eau de mer? Il a répondu. Donc, on lui a posé la question sur les ablutions, c'est tout. Il a répondu, ils lui ont posé une seule question, il a donné deux réponses. La première par rapport au wudu, il a dit, vous pouvez faire le wudu avec l'eau de la mer. Et il a ajouté une autre faïda, il a dit quoi? Il a dit, vous pouvez manger le porc qui mord dans la mer, vous pouvez le manger. Ici, la personne a demandé une question. Elle a dit, est-ce que le vomissement fait perdre des ablutions? Je lui dis non. Et je fais comme a fait le prophète, alayhi, je lui ajoute un autre intérêt. Je lui dis, ça n'annule pas aussi le ramadan ou là, le jeûne. Donc, le vomissement n'annule ni les ablutions ni le jeûne. Sauf si la personne s'est elle-même, elle s'est faite vomir. Elle a rentré ses doigts, par exemple, dans son gosier et a vomi. Dans ce cas, elle doit quoi? Elle doit rattraper le jour. Il n'y a pas de jour à rattraper. On s'essuie la bouche et on se lave la bouche, on se rince la bouche et on continue à jeûner sans rattraper. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Il a dit celui qui se fait vomir, qu'il rattrape. Qui est sorti de lui-même, il a dit qu'il n'avait pas de rattrapage. Tfadlan.
Ami cher, concernant la question qui vous a tellement posée tout à l'heure, par rapport à la sœur qui demandait si elle pouvait prendre son oncle biologique en tant que tuteur, elle dit, il a dit que ce n'est pas son oncle. Ça, on le sait, mais on veut savoir si elle peut le prendre comme tuteur, comme un frère fiable, et non pas en tant que oncle. Donc, elle veut savoir si elle peut prendre. Donc cet oncle biologique en tant que tuteur, mais en le considérant comme une personne fiable. Toi, Dacher.
C'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. Qu'elle peut pas le prendre en tant qu'oncle, l'âme, mais qu'elle peut le prendre en tant que frère fiable. C'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. Yani, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de l'oncle maternel, qu'une femme ne peut pas prendre comme tuteur pour le mariage. Et pourtant, si elle n'a pas de tuteur, l'âme, elle peut le prendre car. Elle va le prendre à la place du frère, car il lui est permis de prendre un frère. Un étranger, elle le prend comme tuteur. Donc dans ce cas, il vaut mieux que je prenne mon oncle comme tuteur. Pourquoi je vais chez un étranger? Si mon oncle remplit les conditions et que lui-même c'est un frère, par exemple. Pourquoi je vais chez un étranger? Voilà ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, mais il n'a été à la tfadlal.
Comme cher. Question suivante, question d'un frère. Hayakumallah, j'ai une question. Voilà, en fait, j'ai travaillé quelque temps et j'ai mis de l'argent de côté, alhamdoulilah. Donc, je voudrais savoir si avec cet argent, ça serait mieux d'abord que je me préserve pour me marier, inshallah, en premier, ou bien les garder pour accomplir, bi'idhnillah, le hajj, pour les années prochaines, inshallah, sachant qu'il a beaucoup augmenté, wa barakallahu fikum, qu'Allah vous augmente la science et vous préserve. Tfadhal cher.
Je dis, comme j'ai toujours dit, bi'idhnillah, c'est très bientôt. Il vaut mieux commencer par le Hajj à cause des hadiths que j'ai cités plusieurs fois. Qu'on ne devait pas retarder le Hajj, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si le Hajj est loin, c'est dans 8 mois ou là une année ou là, et que maintenant la personne ressent le besoin de se marier. Il vaut mieux qu'elle commence par le mariage bi'idhnillahi ta'ala. Car à quoi ça sert d'attendre le Hajj dans une année et entre-temps de tomber dans les péchés et dans la zina ou l'ayadu billah. Je détruis, yani, je fais rabaisser ma foi à zéro, l'ayadu billah. Le thermomètre va descendre de peut-être de 100 jusqu'à 10. Non. Donc, d'ailleurs, même si je suis pas dans, si, même si j'ai pas peur de tomber dans le péché et que quelqu'un a les moyens de se marier, qu'il se marie. Qu'il se marie, naam, car il ne sait pas ce qui va arriver demain. Au moins, à la rigueur, yani, il va laisser sa trace. Il va laisser les enfants, des enfants qui va, Allah subhanahu wa ta'ala, des enfants qui vont, yani, agrandir le nombre des musulmans, des enfants qui le prophète sallam sera ravi quand il va voir qu'il a le plus de gens qui l'ont suivi, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, tfadhal.
Donc il est 22h30, à vous de me dire, Inch'Allah, si c'est terminé. En question d'un frère, qu'Allah vous préserve, est-il permis d'offrir un maillot de foot d'équipe nationale d'Algérie à des frères où le nom du joueur est inscrit derrière le maillot? Jazakumullah khairan. Tfadal, cher.
C'est possible de répéter la question, Barakallahu fik.
Naam, cher. Qu'Allah vous préserve, est-il permis d'offrir un maillot de foot de l'équipe nationale d'Algérie à des frères où le nom du joueur est inscrit derrière le maillot? Jazakumullah khairan. Tfadal, cher. Ah, donc le cher a été déconnecté. Nous allons attendre qu'il revienne, Inch'Allah. Naam, cher. Il a entendu cette question, ça l'a fait déconnecter. C'est normal, ils sont pas bons, ta'amallah. Je ne sais même pas s'ils sont qualifiés.
Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je ne connais pas un jugement des savants particulier à cette question, bi'idhnillahi ta'ala. Mais moi, c'est-à-dire, c'est juste mon avis. C'est juste mon avis, c'est pas charia. C'est moi qui dis, c'est tout. Je dis, il est possible que maintenant, tu lui offres qu'est-ce qu'il a dit, un maillot. Naam, et le nom de celui qui joue, naam, par exemple, ne fait même pas la prière. Et quelqu'un qui est connu pour sa perversité, des fois. Et quelqu'un qui a une façon de se coiffer, vraiment comme les coiffards. Comme ceux qui laissent comme ça quelque chose au milieu. Il n'y a rien à droite, à gauche. Comme a dit, vraiment ce qu'a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en ce sens, je suis en train de lui faire la publicité. Je suis en train de faire la publicité à cette personne. Ensuite, ça aide à quoi? À ce qu'il y a les gens attachent leur cœur avec les joueurs. Moi, j'aurais aimé que les gens attachent leur cœur avec, par exemple, les sahaba, les compagnons. Maintenant, moi, je vais aider les gens à ce qu'ils attachent leur cœur avec des gens qui passent leur temps à jouer du matin au soir. Moi, personnellement, j'aurais pas fait ça à ta place. Wallahu ta'ala alam. Voilà. Un livre sur les sahaba, ma'alish. Tfadlal.
Non, cher. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui me stoppez, Inch'Allah. Donc, question suivante. Question d'un frère. Cher, hafizakum Allah, je vous transmets la question d'une sœur qui n'a pas la possibilité de vous la poser directement, mais qui écoutera le cours, Inch'Allah. Mon mari est salafi, il fait beaucoup d'actes d'adoration, alhamdoulillah. On vit actuellement en France et on envisage de faire la hijra. Mais mon mari attend la réponse de l'université de Médine et économise un peu d'argent. On vit chez les parents de mon mari et moi je n'arrive plus à patienter. Je veux avoir de l'intimité et c'est très dur ici. Mon mari ne veut pas prendre d'appartement parce qu'il me dit qu'il va trop dépenser et qu'il ne pourra pas économiser pour la hijra. Est-ce qu'il doit prendre un appartement le temps qu'on puisse partir ou doit-on rester dans cette situation? Donnez-nous des conseils, Barakallahu fikoum, cher. Un cher va vous répondre que si ça avait été lui, sa fille ne l'aurait pas donné, même si le mari aurait une cabane, ça aurait été mieux. Wallahu alam, on va voir la réponse du cher. Tfadal, cher.
Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, si yani, maintenant en prenant un appartement, je vais dépasser beaucoup d'argent. Ça va être une cause pour retarder la hijra. Dans ce cas, je préfère patienter. Si c'est seulement quelques mois, 3 mois, 6 mois, là, ensuite, masha'Allah, je vais me trouver dans un pays musulman et tout seul avec mon mari dans un appartement ou un studio au-delà. Donc, mais si maintenant, par contre, je sais que ça va durer des années. Alors je dois rester comme ça dans cette situation des années et que je vais manquer de mes droits, etc. Je vais en être privé à cause que je ne suis pas seul avec mon mari, etc. Il vaut mieux chercher un petit studio et le temps que Allah subhanahu wa ta'ala fasse une solution. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal.
Question suivante, question d'un frère. Ahsanallahu alaykoum, cher. Il est apparu un phénomène depuis quelque temps, malheureusement, qui est le fait de surnommer les salafis maîtréalistes. Nous avons remarqué que ce ne sont, pour la plupart du temps, des gens de sectes takfiriyin, ikhwani, qutbi, etc., qui emploient ce sobriquet et ils visent entre autres par cette appellation, cher Rabia, le maître Hafizahullah. En essayant de faire croire qu'il s'est distingué des autres savants, tels que Cheikh Al-Uthaymeen, Al-Albani ou encore Ibn Baz, rahimahumullah, par un nouveau manhaj extrémiste. Mais il semble que certains frères et sœurs de la Sunna restent encore confus et soient pris d'ambiguïté à ce sujet, alors que certains savants et étudiants, prêcheurs, ont mis en garde contre ces appellations et ces sobriquets et ont interdit de dénigrer les savants. Mais nous aimerions, Yachir, de par votre impact et votre facilité à vous exprimer en français, Allahumma barik, que vous nous éclaircissiez sur ce point, Inch'Allah. Qu'Allah vous allonge votre vie d'une vie d'obéissance et vous augmente en science. Amin. Tfadal, cher.
Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. En fait, ceux qui critiquent Cheikh Rabih Hafidahullah, on peut peut-être les diviser en deux groupes, deux grands groupes. Non. Premier groupe, ceux qui sont ses ennemis. Ceux qui sont ses ennemis. Ils ne l'aiment pas. Ils sont jaloux de lui. Non. Ceux-là, c'est clair. Et ce ne sont pas des salafis. Comme les Qutbi, les Ikhwan, les Sourour, les Tablir, les Takfir, les tout cela n'aiment pas Cheikh Rabbi Hafidahullah. Et il y a le deux, c'est pas la peine de parler de deux. Et il y a maintenant le deuxième groupe, c'est quoi? Tu trouves des gens salafis. Non, salafis. Ou alors débutants dans la salafia. Ou alors salafis, mais ignorants encore. Et qui ont ce qu'on appelle des préjugés sur Cheikh Rabbi Hafidahullah. Non. Soit, c'est-à-dire des choubouhettes, soit ils ont entendu de lui qu'il n'a pas de science, soit, et surtout cela, ils ont entendu de lui qu'il est quelqu'un de très sévère, quelqu'un d'extrémiste. Non. Et que vite, vite, il te dit telle personne ne fait pas partie des selfs, pour une petite faute. Celui-là ne fait pas partie des selfs. En fait, toute personne qui dit comme ça ou pense comme ça, est dans l'erreur grave et ne connaît pas vraiment qui est Cheikh Rabbi Hafidahullah. Cheikh Rabbi Hafidahullah, si tu vas rentrer dans son site et lire Non. Ou alors lire les livres qu'il a écrits. Il est fait tawa qu'il a. Et que tu le suis de près, tu vas t'étonner de lui. Premièrement, Allah ibarak de l'année. Deuxièmement, de la jalousie que Allah ta'ala lui a donnée dans le minhaj. Troisièmement, de sa grande défense de la salafia et comment, yani, alhamdoulillah, yani, il montre les gens de la bida. Et quatrièmement, tu vas t'étonner de, yani, comment qu'il est patient avec les gens de la passion. Comment qu'il est patient avec les gens de la passion et comment qu'il est modéré bi'idhnillahi ta'ala. Regarde, par exemple, on va prendre Abdurrahman Abdel Khaliq, le Moubtadia, l'âme, qui vit au Kuwait, qui était Zama Salafi. Quand Cheikh Hafidahullah, Cheikh Rabih, lui a répliqué dans ses droits, l'âme, il a dit dans le premier livre, il a dit j'ai patienté avec lui, ça fait des années. Avec plusieurs personnes que j'ai lues moi personnellement, sur lesquelles le cheikh a répliqué, il a dit cette personne, ça fait des années que je patiente avec elle, que je lui envoie des nasiha en tête à tête. Il a dit mais c'est pas possible, la personne ne veut pas revenir vers le haq. Ne veut pas revenir vers le haq. Naam. Si quelqu'un croit, Hafidhahullah, juste il entend quelqu'un parler, qu'il a fait une. Il dit, allez, celui-là, jetez-le, c'est pas un salafi, il se trompe. Ça veut dire qu'il ne connaît pas bien Cheikh Rabia. Naam. Cheikh Rabia, s'il prend la décision finale de dire que celui-là, c'est pas un salafi, et prenez garde à lui, ça veut dire que hey, il a étudié son cas, il lui a écrit personnellement, il lui a fait des nasiha, il lui a. Et la personne ne veut pas revenir. Sinon, celui qui connaît bien Cheikh Rabi Hafidhahullah et il lit ses livres, il va trouver yani, des délices et du plaisir yani, à lire ses livres. Tellement yani, il a de la science, dans la science du hadith, la science du jarh ou ta'dil, dans la aqidah, dans Allah ibarak. Lisez, il a une série de fatawa. Je crois qu'il comprend 20 livres, je crois. C'est une série du numéro 1 au numéro 20, je crois. Et fatwa de Cheikh Rabi Hafidhahullah. Yani, si quelqu'un connaît l'arabe, il les lit. Bi'idhnillahi ta'ala, c'est une mut'a. Il est vraiment dans les délices. Naam. Puisse Allah subhanahu azza wa jal yani, aider le Cheikh. Naam. Et puisse Allah azza wa jal enlever la poussière des yeux, des salafis qui ont des préjugés sur lui. Amin. Quant aux autres. Naam, tfaddal, je suis là, bi'idhnillah, tfaddal. Quant aux autres, j'ai dit quant aux salafis. Les nouveaux et ceux qui n'ont pas de sens, etc., qui ont des mauvais préjugés sur lui. J'ai dit que Allah subhanahu wa ta'ala les aide et leur enlève la poussière qu'ils ont dans les yeux, ou alors sur les yeux. Quant aux autres, les égarés et ses ennemis, que Allah ta'ala les guide, que Allah ta'ala les guide vers le droit chemin, bi'idhnillah. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Cher qu'Allah vous préserve, j'ai une question sur le travail de la femme. En raison de la pression de ses parents qui la persécutent pour son dîn et refusent de subvenir à ses besoins, une sœur a trouvé un travail où elle peut garder le djilbab shar'i. Mais par contre, il y a parfois de la mixité. Est-ce considéré comme un travail illicite? Ces doigts sont-elles rejetées par Allah? Peut-elle utiliser l'argent qu'elle gagne pour faire la hijra ou pour aller étudier? Sinon, que doit-elle faire de cet argent? Pourriez-vous, Yachir, faire des doigts pour moi, qu'Allah me facilite le mariage, car vraiment je suis très éprouvé par ma famille et ma situation. Qu'Allah vous récompense et Barakallahu fikoum pour votre réponse. Toi, Dalshir.
Naam, est-ce que vous m'entendez? C'est vrai. Des fois, la personne se trouve persécutée et se trouve contrainte à travailler. Et des fois, contrainte à travailler là où c'est pas permis et là où la personne ne veut pas. Mais des fois, elle se trouve dans la contrainte. Si la personne se trouve dans la contrainte, qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala au maximum en détestant dans le cœur la chose qu'elle est en train de faire. Ensuite, si elle est dans la contrainte, son argent est halal si elle est dans la contrainte. C'est-à-dire qu'elle peut faire la hijra avec et s'aider pour le mariage et acheter des choses à manger, à s'habiller, etc. Et en passant, regardez cette question qu'on a posée à Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, quand il était vivant. Non, mais on lui a demandé comment qu'on fait pour les écoles qui sont mixtes. Les écoles qui sont mixtes. Il a dit. يجب عليك أن تطلب مدرسة ليس هذا وضعها. Il faut d'abord que tu essayes de trouver une école qui n'est pas mixte. Comme je dis ici à cette sœur, si tu trouves un travail où c'est pas mixte, tu dois commencer par le travail où c'est pas mixte. Ensuite, il a dit, فإن لم تجد مدرسة إلا بهذا الوضع, si maintenant tu ne trouves, il a dit, une école que comme ça, c'est-à-dire mixte, وأنت محتاج إلى الدراسة, et que tu es obligé, tu as besoin d'étudier. فإنك تقرأ. Donc, va étudier. وتدرس. Et demande la science. وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة. Et essaye au maximum de t'éloigner des turpitudes et des fitnes. Quand tu es dans un endroit mixte, tu te trouves contraint d'y être, naam, tu essaies de craindre Allah au maximum. Ça ne veut pas dire parce que je travaille dans un endroit mixte ou j'étudie dans un endroit mixte que je reste du matin au soir avec l'ex, avec le sexe opposé. Si je suis une fille, donc je reste avec un garçon du matin au soir à discuter, à rire et à rire. Non. Je suis là pour étudier. J'évite au maximum de parler aux garçons. Et si je suis un garçon, j'évite au maximum de parler aux filles tant que ce n'est pas nécessaire. Non. Il a dit Bihaytu taruddu basarak. De façon à ce que tu baisses le regard. Wa tahfad lisanak. Et tu préserves ta langue. Wa la tatakallam ma'a an-nisa. Tu parles pas aux femmes. Quand il n'y a pas de besoin. Tu parles pas aux femmes. Tu discutes pas et tu racontes des blagues. Non, tu parles pas du tout. Sauf quand il faut parler. Naam. Wa la tamur ilayhinna. Et, c'est-à-dire, ne passe pas devant elle. Yani pour ne pas tomber dans les fitnes. Essaye de t'en éloigner au maximum. Donc, fatwa nour al-darb, nour al-darb de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, ça se trouve aussi, et ça se trouve aussi dans son site, bi-idhnillah ta'ala. Donc, je dis à cette sœur, si tu vraiment tu es dans le besoin et dans la contrainte, donc, yani, applique ce que vient de dire Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Tfadal.
Alors, question suivante. Et Tofik, pour le timer, en fait, le cher avait dit 10 minutes. Alors là, il veut continuer encore. La question d'une sœur qui pose la question pour son mari. Il y a cher qu'Allah vous récompense par la meilleure des façons pour tout le bien que vous nous apportez ainsi que les autres. Amin. Amin. Les agents de sécurité en France, j'ai des difficultés pour trouver du travail. Et souvent, on me propose du travail en supermarché, sachant qu'ils vendent de l'illicite, m'est-il permis de travailler en tant qu'agent de sécurité dans ces marchés? Jazakumullah khairan, qu'Allah vous préserve, ainsi que vos biens et les admins. Amin. Fatashir.
Qu'est-ce qu'il fait exactement? J'ai pas bien compris. Tfadl. Je sais qu'il vend de l'illicite, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Tfadl.
C'est un agent de sécurité, cher. Il surveille pour vérifier si personne ne vole. C'est-à-dire, le supermarché, il n'y a pas que de l'illicite. Ils vendent des légumes, etc. Mais il y a des rayons où il y a du porc, de l'alcool, etc. Tfada, cher.
Inch'Allah, je lui rends la réponse dans le prochain cours. Tfadl. faire. N'oublie pas que il y a deux questions aujourd'hui auxquelles j'ai dit que je connaissais pas la réponse, de me les envoyer, inshallah ta'ala. Si tu as oublié, je te rappelle. De l'agent de sécurité. Et l'autre, de la zakat. La zakat de celui qui a donné son argent en projet. Tfadal.
Là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Cher, encore d'après. Alors, cher, en cours d'apprentissage du Coran, il nous arrive de faire des annotations sur le Coran au crayon, à papier, et que l'on efface par la suite. Est-ce que cela est permis? Jazakumullah khairan, cher. Tfadal, cher.
J'ai lu 5, 6 ou 7 fatwas. Des grands savants contemporains. Cheikh Fawzan, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Rajhi, comme ça. 6 ou 7. Subhanallah. Les 6 ou les 7 sont unanimes à dire que c'est interdit d'écrire quoi que ce soit sur le Coran. Que ça soit au-dessus du verset, que ça soit dans la marge à droite, à gauche ou en bas ou en haut. C'est-à-dire que le Coran, on doit le laisser tel quel. On n'ajoute aucun mot pour l'effacer après. Comme ça, ils ont dit les 6 ou les 7, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Tfadhal. Maintenant, si tu écris un mot effacé du Coran, écrit de nouveau. Tu as réécrit ce qui s'est effacé. C'est écrit par exemple c'est écrit Qul huwa Allahu ahad et il n'y avait pas le mot huwa. C'est écrit Qul Allahu ahad et il y a un vide au milieu. Toi tu écris par exemple avec le stylo huwa. Ça veut dire voilà ce qui manque. Tu n'as rien mis écrit de femme non plus. Naam, tfadhal. Wallahu azza wa jal a'lam, tfadhal. Question suivante, question d'un frère. Jazakumullah khairan. Afin d'une sœur. Jazakumullah khairan. Je suis une sœur convertie et ma mère vit avec une femme. C'est son couple. Je ne sais pas quel comportement dois-je adopter avec elle quand je viens la visiter chez elle, car je la vois qu'une fois par an ou deux, vu qu'elle vit dans un autre pays que le mien. Surtout que j'envisage de me marier bientôt. Et mon futur mari pourrait être gêné par cela. Barakallahu fikoum, cher. Tfadal, cher. Afouane, j'ai pas entendu la question car quand tu étais en train de dire la question, quelqu'un m'a écrit en whisper. Il m'a écrit, une sœur demande. Un crayon en papier que l'on peut effacer, c'est-à-dire on ne peut pas écrire, même avec un crayon que l'on peut effacer, je n'ai pas papier que l'on peut effacer. Je dis, les savants ont dit que c'était pas permis d'écrire dessus, par exemple avec un crayon. Le crayon normal. Le crayon aussi, il s'efface quand on écrit avec un crayon en bois. Voilà, crayon de bois. On peut effacer, on peut gommer. Donc, c'est quoi la différence entre un crayon de bois qu'on peut gommer et crayon en papier? Car je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire crayon en papier. J'ai dit, les savants, c'est la même chose. Non, les savants ont dit, il faut rien écrire dessus. Prends un cahier avec toi et tu écris les notes sur le cahier ou le carnet. بإذن الله تعالى تفضل
Je vous répète la question, cher. Cher Jazakumullah Khairan, je suis une sœur convertie et ma mère vit avec une femme. C'est son couple. Je ne sais pas quel comportement dois-je adopter avec elle quand je viens la visiter chez elle, car je la vois qu'une fois par an ou deux, et vu qu'elle vit dans un autre pays que le mien. Surtout que j'envisage de me marier bientôt et mon futur mari pourrait être gêné par cela. Barakallahu fikoum, cher. Fadashir.
Maalesh, il faut être patient avec moi. Quand tu lisais la question, il y a quelqu'un qui m'a écrit en whisper. C'est toujours sur le Coran. Il m'a dit, tu réécris. Maintenant, si on écrit un verset sur une feuille, est-ce qu'on peut écrire dessus ou laisser kif-kif? Maalesh, si c'est sur une feuille, Maalesh, tu as écrit un verset sur une feuille et tu écris en bas ou là à gauche ou là à droite que voilà le sens ou je ne sais pas, idram, n'importe quoi. Moi, pas sur le Coran. Pas sur le Coran. Ensuite, pour revenir à la question que tu as déjà répété deux fois, donc j'ai compris la question, reste seulement qu'un quelque chose m'a échappé. Tu as dit, elle a dit, ma mère vit avec un homme, ou bien elle a dit, mon père vit avec une femme. J'ai pas bien entendu, tfadlal.
Là, cher, Auzubillah, elle vit avec une femme. Sa mère vit avec une femme. Elle est en couple avec une femme. Toi, la chère.
C'est-à-dire mariage pour tous. Allah yahdihom. Femme. Allah yahdihom. Naam. Donc maintenant, c'est quoi la question? La question c'est, si sa mère a besoin d'elle, elle doit l'aider dans les choses qui sont pas haram. Si la mère lui téléphone, lui dit, viens m'acheter des médicaments, viens m'acheter du pain, donne-moi de l'argent pour payer l'électricité, comme ça, et elle en a. Elle doit l'aider parce que c'est sa mère. Elle ne l'aide pas seulement pour faire le haram. Si elle lui dit donne-moi de l'argent pour acheter des choses pour faire le haram. Ou bien pour je ne sais pas quoi qui est haram. Non, c'est tout. Tant que ce que la mère demande est halal, ou bien qu'elle tombe malade, elle doit aller y aller à son chevet. Et elle doit lui acheter des médicaments et comme ça. Et elle lui téléphone aussi si elle est loin d'elle pour prendre de ses nouvelles. Et n'empêche qu'elle la déteste pour ce qu'elle est en train de faire. Elle la déteste en Allah pour ce qu'elle est en train de faire. Et en même temps, elle doit faire ses devoirs envers elle. Comme a dit le prophète à Esma, la sœur de Aïcha. Quand elle lui a dit, ma mère est venue me demander de l'air et de l'aide et c'est une associatrice, mushrika. Est-ce que je lui en donne? Il lui a dit, donne-lui. Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Donne-lui. Aide-la. C'est une mouchrika, donne-lui. Mais je ne lui obéis pas dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et fais des doigts à ta mère. Ta mère, il y a plus pécheuse qu'elle et des hommes plus pécheurs qu'elle qui sont revenus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ta mère, en faisant cela, elle n'est pas devenue kafira. Sauf si elle ne reconnaît pas le statut que c'est haram, elle dit non, ça c'est halal. Je le considère une kafira. Mais si dans son cœur elle reconnaît que ça c'est haram ce qu'elle est en train de faire, elle n'est pas kafira. C'est juste un grand péché. C'est juste un grand péché. Fais des doigts et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la guider. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala yani, va t'exaucer à toi et la guider. Et elle va porter le hi et le jilbab et le sitar. Bi'idhnillahi ta'ala. Rien n'est impossible par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ici c'est la dernière question, inshallah ta'ala. Tfadl, on va faire de ça la dernière question. Tfadl.
Pour répondre au whisper, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, la personne que tu m'as citée, n'est pas première dans la liste. Regarde bien dans la liste, tu verras qu'elle est loin. Elle n'est pas première. Donc la sœur chère, la sœur convertie, elle demande quel comportement doit-elle avoir. Et également ce qu'elle citait dans la question, c'est que bientôt elle va se marier. et elle disait que son futur mari pourrait être gêné. Comment doit-elle peut-être annoncer ça à son futur mari, etc. Là, je pense que c'était également le sens de sa question. Toi, Dacher.
Non, mais en fait, le futur mari n'a rien à voir avec cela, en fait. Pourquoi? Le futur mari, il cherche la reconvertie elle-même. Si elle est mashallah et qu'il y a des affinités, non, pour qu'il vive avec elle. Et encore, s'il aime cette femme avec laquelle il veut se marier, il acceptera cela facilement. Surtout s'il a de la science. Il a l'ilm. Femme, c'est pas un djehl. S'il a l'ilm, il sait que ça n'a rien à voir avec sa future épouse. Sa mère, son père, son cousin, tout ça n'a rien à voir avec ma femme. Nam. Elle demande si elle peut la visiter avec lui. Nam. Elle peut la visiter quand elle n'est pas avec l'autre. Nam. Quand elle n'est pas dans le haram. Elle peut la visiter avec son mari, c'est normal. Et lui, Nam, lui, pour elle, c'est-à-dire pour lui, la mère de son épouse, c'est pas une étrangère, elle devient de la famille. C'est-à-dire que elle peut ne pas se voiler devant lui. C'est dans le cas où elle se voile. Il peut lui tendre la main, il peut lui faire la bise. Non, parce que c'est sa belle-mère. Donc elle voit comment avec Hikma, yani, dire à son mari que ceci ou cela. Et elle n'est même pas obligée de lui dire cela maintenant. Elle n'est même pas obligée de lui dire que ma mère a tel ou tel défaut. Car il n'a rien à voir avec sa mère à elle. Non. تفضل. Allez, Mouslim, donne la dernière question, juste qu'elle soit pas dans le divorce, inshallah ta'ala. Si c'est un mariage, maalich, on félicite le mariage et on envoie les vœux. Mais si c'est un divorce, ça va être difficile de se. Même si c'est un divorce, on l'accepte. Car divorcer, c'est se séparer. Et nous, on doit aussi se séparer. Dans quelques instants, on va se séparer. Donc, si c'est divorce, on va se séparer deux fois. Deux fois. Du paltok et du couple. Qaddar Allahumma shafa'al. Tfaddal.
Allah ybarak, cher. Vous êtes exceptionnel. Qu'Allah vous préserve. J'attends juste que le frère Ta'amallah me l'envoie et je vous la lis, cher. Donc c'est bon, je viens de la recevoir. Donc déjà, ça commence par le mariage, cher. J'ai pas encore lu la suite. Inch'Allah, ikun khair. Voici ma question. Je me suis marié il y a environ 3 mois. Alhamdulillah, avec un frère qui habite assez loin de moi et ma famille. Il a dit à mes parents et moi-même, que lorsqu'il finira sa formation, il montera s'installer à Paris avec moi. J'ai précisé lors de la rencontre avec nos familles que mes parents sont malades et je souhaiterais rester auprès d'eux. Il y a quelques jours, il a changé d'avis en disant qu'il ne supporte pas la région parisienne et qu'il ne pourra pas venir comme prévu. Alors je suis perdu maintenant, j'attends juste la suite. Non, cher, si on comprend un peu le reste si on devine un peu le reste de la question, c'est que dois-je faire, dois-je rester, être patiente ou dois-je divorcer? Voilà, j'attends juste ce que le frère va m'envoyer. Non, donc elle dit que dois-je faire? Il y a quelques jours, il a changé d'avis en disant qu'il ne supporte pas la région parisienne et qu'il ne pourra pas venir comme prévu. Alors je suis perdu maintenant, que dois-je faire? C'est grave que certains donnent une parole et ensuite ils laissent comme ça. Inch'Allah.
Non, je m'en doutais. Ça commence par, voilà, on s'est marié il y a quelque temps et ça se termine par, donc, est-ce qu'on doit divorcer? Mouhim. Voilà, est-ce que tu as dit dans la question qu'ils étaient déjà mariés, ça veut dire qu'ils avaient consommé le mariage, et que maintenant, ce que j'ai pas saisi, et ce que j'ai pas suivi aussi, car j'étais en train d'écrire, donc, pourquoi il ne veut pas venir dans la région parisienne? J'ai pas compris pourquoi il ne veut pas venir. J'ai pas bien saisi cela. Tfadlal.
Zama cher en France, il est connu que la vie parisienne, c'est métro. Donc peut-être qu'il supporte pas justement ce rythme, enfin ce rythme de vie. Et il lui a dit qu'il n'arrivait pas donc à supporter, qu'il voulait revenir de là où il habitait. Et peut-être que lui, il vient de la campagne où c'est calme, etc. Voilà, c'est métro, boulot, dodo. Il n'y a pas de... Donc c'est peut-être ça, cher. C'est juste peut-être le mode de vie ou la légende, la mentalité, etc. Mais ce qui est grave, c'est que justement, la sœur a donné la condition à la base qu'elle voulait vivre près de chez ses parents. Il dit oui, et après, il essaye, il dit non. Et ensuite, donc, concernant la consommation du mariage, Wallah alam, cher. Elle dit qu'ils se sont mariés il y a 3 mois. Laquelle ne s'est pas écrit s'ils ont consommé le mariage. Fada, cher.
Malish. Moi, ce que je comprends, Wallah alam, c'est qu'ils ont consommé. Car quand on s'est marié, ça veut dire qu'on a consommé. Wallah alam. Je dis à la sœur, si elle a mis comme condition préalable que je me marie avec toi à condition qu'on habite dans telle ou telle yani, ville, et que c'est une condition, et qu'il a accepté, ensuite il a changé d'avis, maintenant la parole revient à la sœur. Si elle veut continuer avec lui, elle continue. Si elle veut arrêter à cause de sa condition, elle n'a pas de péché. Vous avez compris? C'est ça, yani la valeur de la condition. Muslimun ala shurutihim. C'est pour cela que la condition est difficile. Quand quelqu'un fait une condition, il doit savoir est-ce qu'il accepte ou il n'accepte pas. C'est pas il dit d'accord, juste pour se marier. Ensuite quoi? Une seconde. Ensuite, yani, quand il veut changer d'avis, il dit, ah, moi je savais pas, etc. Non, tu savais. Tu savais qu'il y avait une condition et tu as accepté avec la condition. Donc maintenant, quand il y a la condition, ce n'est plus possible de changer d'avis. Sauf si la personne qui a fait la condition se désiste de sa condition. Et dise, Madish, j'enlève la condition. Ensuite, je donne une nasiha à la sœur, je lui dis, et maintenant, si, yani, en changeant d'endroit et en allant avec lui là où il veut aller, s'il y a de l'amour entre vous et que vous voyez que vous êtes fait, mashallah, l'un pour l'autre, et que vous remplissez les deux les conditions, etc., pourquoi, yani, ne pas se désister juste pour ne pas rompre, yani, ce lien qui est, mashallah. C'est une nasiha que je donne. Là, maintenant, si lui, il a vu autre chose. Peut-être que cette autre chose serait aussi un grand bien pour moi. Naam. Donc c'est à elle de bien analyser les choses avant de prendre, inshallah ta'ala, la décision finale. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aider, nous aider, aider tous nos soeurs et nos frères et surtout ceux qui sont en Europe, naam, et qui sont comme ça, yani, comme on dit, perdus. Perdus et de yani, ont beaucoup de problèmes. Ils ne trouvent pas, yani, la solution de leurs problèmes. Les parents de la sœur sont malades, ils n'ont pas besoin d'eux. C'est elle qui emmène son père à l'hôpital et c'est Ranam. Dans ce cas, il lui est permis qu'elle tienne à sa condition. Il disait surtout que ceux qui ont beaucoup de problèmes en France et qui téléphonent, yani, au savant, etc., c'est difficile et ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse. Car c'est difficile, comme vous savez, de contacter les savants. C'est difficile de contacter les savants, surtout que les savants, et ça c'est dommage. Alors quand ils savent que la question vient de France, beaucoup ne veulent pas répondre. À cause de qui? À cause de certains et certaines qui, en France et en Europe en général, ont donné un mauvais aperçu sur les musulmans et sur les salafis aussi. Dame. Beaucoup de frères et de sœurs en France sont mashallah. Ils aiment le dîn, ils sont sérieux, ils sont bidnillahi ta'ala sincères. Ils veulent apprendre, ils veulent la sunna, ils veulent yani, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Et à cause d'un petit groupe parmi eux, dame, qui donne un mauvais aperçu, alors certains savants croient que peut-être tout le monde est comme ça. Salah. Pour ça qu'il y a certains savants, quand le téléphone sonne et il sait que c'est de il ne répond pas. Il dit non, je ne réponds pas à ceux de France. Pour vous donner juste un aperçu, Je voulais pas parler de ça, mais c'est venu comme ça et en passant. Sinon, cette chose que je vais vous raconter, ça m'est arrivé, ça fait au moins peut-être une année. Mais j'en ai pas parlé car il n'y avait pas, disons, l'occasion. Imaginez une fois une personne, et c'est une sœur, subhanallah, une sœur, de chez vous, de France ou de Belgique, a eu quelques problèmes avec un admin ou deux ou trois. Il y avait autrefois, j'avais seulement un ou deux admins dans ce salon. Et bien sûr, puisqu'elle a eu des problèmes avec le l'autre, ils l'ont quoi? Ils l'ont bouncé, peut-être une fois ou deux fois. Je sais pas exactement ce qui s'est passé entre eux. Et elle m'envoie pour me dire que voilà, les admins, ils m'ont fait du tort, etc., etc., etc. Non? Moi, je lui ai pas répondu. J'ai seulement parlé avec les admins. Je leur ai dit, Yannick, essayez d'être doux, de ne pas bouncer les gens, etc. Cette sœur a cru que je leur ai pas parlé. Elle m'a envoyé un deuxième email où elle dit, je résume c'est tout en une phrase ou deux. Yachir, c'est-à-dire moi, je vous apprends que votre da'wa, yani tout ce que vous faites ne marche pas du tout. Et qu'il n'y a aucun bénéfice ni intérêt dans votre da'wa. Et que vous êtes en train de perdre le temps. Naam. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous humilier. Comme ça. De vous humilier, de vous avilir. Attends la dernière phrase. Écoute la dernière phrase. Et je demande à Allah Ta'ala le Tout-Puissant qu'il ne vous fasse pas mourir avant de vous donner un cancer. Et je demande à Allah Ta'ala le Tout-Puissant qu'il ne vous fasse pas mourir avant de vous donner un cancer. Subhanallah al-Azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah al-Azim. Donc, imaginez maintenant pourquoi les savants ne veulent répondre. Bon, imaginez pourquoi les savants ne veulent pas répondre aux gens de France et aux gens d'Europe en général. Disent, l'audace, l'audace. Il dit, je suis salafi, je défends la salafia, j'aime la salafia. Il dit comme ça à quelqu'un qui veut lui apprendre la religion sans avoir fait aucun mal et lui fait des doigts comme ça contre lui. Donc, il dit, moi, je me désavoue des gens de France et des gens. Et moi, alhamdoulilah, que je vous connais, ça fait maintenant 7 ans qu'on est ensemble. Et je sens, masha'Allah, ahsabukum et que ce n'est pas à cause de quelques-uns, naam, quelques-uns. On me dit maintenant que cette sœur est de Paris. Cette sœur est de Paris. On me dit que ce n'est pas, yani, à cause d'une personne ou deux, que tous, on va les mettre, yani, dans le même sac. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider. Et nous faire aimer et nous donner la douceur et la sagesse dans la da'wa et la sincérité. Et la sincérité. Subhanakallahumma.
Salam alaikum, Mousseline, tu m'entends? Akhi Mousseline. Je crois que Cher a eu un problème de connexion. Mouhim, c'était pour vous dire que, voilà, par rapport à ce que nous a raconté Cher, eh ben, bien faites de votre côté des doigts pour que Allah permette à Cher de le voir Yom al-Qiyamah et qu'il soit en une position élevée, bien wa barakallahu fikoum.
En fait, je suis revenu pour vous dire salam, car ça s'est déconnecté. Allah Ta'ala nous préserver et nous donner la hikma, et la sagesse et la science nécessaire et la sincérité et nous faire rapprocher d'Allah Subhanahu wa Ta'ala davantage et nous apprendre sa religion. Subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala vous aimer comme vous m'avez aimé en lui. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se rencontre inshallah ta'ala samedi.